une production du Studio SF.
Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discuter. J'espère que vous allez bien, sincèrement, je l'espère, pour vrai. Je sais que j'ouvre souvent avec cette phrase-là, le podcast, mais sachez qu'elle est sincère. J'espère vraiment que vous allez bien. Je sais que c'est un moment de vie weird, mais j'espère, merci d'avoir cliqué sur le podcast. J'espère qu'il va vous faire du bien à ce sujet. Mon invité aujourd'hui s'appelle Nicolas Chevrier. C'est un psychothérapeute, un psychologue qui m'a été référé par mon ami, encore une fois, Rose-Aimée Autonne-Témorin, qui est la bookeuse officielle du podcast, on dirait. Donc bref, pour ceux qui n'auraient pas écouté le podcast avec Rose-Aimée, j'ai enregistré sa deuxième présence. Donc, Rose-Aimée est venue il y a quelques semaines de ça et j'avais communiqué le désir de recevoir plus de professionnels. Et donc, à la fin du podcast, j'ai demandé des noms de professionnels. Elle m'a conseillé Estelle Cazelet, qui est une sexologue que j'ai reçue sur le podcast, qui est vraiment, vraiment, ça a été une rencontre géniale. Elle m'avait conseillé la neuropsychologue Marianne Bélanger, que j'ai reçue aussi sur le podcast où on a parlé de douance, qui était vraiment géniale. Et Marianne m'a aussi référé Nicolas Chevrier. Elle me l'a pas référé, mais elle m'a dit que c'était son ami. Et bref, c'est le troisième nom que Rose-Aimée m'avait mis sur sa liste, qui est un psychologue. Donc, je l'ai invité et il a gentiment accepté. Et on s'en est suivi une conversation où on parle de santé mentale, de santé émotionnelle, d'intelligence émotionnelle, de plein de choses humaines, très, 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 très le fun. Donc, il a été super généreux de ses connaissances et de son temps. Donc, j'espère vraiment que cette conversation-là va vous plaire, va vous faire du bien. Alors, je vous laisse avec la discussion avec Nicolas Chevrier.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est Jay, du temps qui discute. Ouais, c'est Jay, du temps qui discute.
Nicolas Chevrier.
Oui.
C'est commencé comme ça.
C'est commencé comme ça.
C'est commencé officiellement. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Ça fait plaisir.
On se parlait à l'extérieur du studio et tu disais que c'était la première fois que tu arrivais pas préparé à un événement médiatique, si on peut appeler ça comme ça, dans ton
Absolument.
Horaire. Est-ce que t'es pas trop nerveux?
Non, ça va. Ça va, ça va. Mais ça se peut, hein, en ce sens où de se préparer, on le fait ça, on le fait en grande partie pour gérer notre stress, gérer notre anxiété.
Ouais.
Donc, de pas me préparer, en effet, ben,
c'était plus stressant pour toi.
C'était plus stressant, ouais.
Tu vois, moi, je suis humoriste, puis il y a bien des humoristes que c'est l'inverse. Se préparer, ça stresse, alors okay. Que... pas être préparé, c'est comme ah, parfait, on fera ça la rendue là-bas, tu sais. pour ceux qui t'auraient pas entendu faire tes chroniques dans le passé ou nulle part, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie?
Moi, je suis psychologue, formé, j'ai fait une maîtrise en psychologie clinique, un doctorat en psychologie du travail des organisations. Donc, une première partie du travail professionnel que je fais, qui est un travail en individuel de psychothérapie.
Ouais.
Mon doctorat, je l'ai fait, je me suis vraiment centré sur l'épuisement professionnel, le burn-out, tous les aspects organisationnels, les aspects en lien avec l'organisation qui peuvent amener le développement de l'épuisement professionnel chez les gens.
Donc, l'organisation à l'intérieur
dans l'entreprise, voilà. Dans le business, c'est quoi les facteurs en lien avec l'entreprise qui vont avoir un impact chez les employés?
Wow.
Qui vont faire que chez les employés, on développe un épuisement professionnel.
Donc, et tu sais, quand même, tu as fait ça fin des années 90, début 2000, c'est ça?
Exactement. Exactement.
Fait que le burn-out était, dans le sens, je veux pas dire populaire, mais moins connu.
Bien moins connu, bien moins connu. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver, parce que quand on fait un doctorat, on doit trouver une organisation pour faire notre expérimentation. Puis ça a été de nombreuses années à chercher, je parle d'années, là, ça m'a pris 3 ans à trouver une organisation qui a finalement été d'accord pour dire, ben, OK, nous, on va se prêter au jeu. Nous, on va demander aux employés de répondre au questionnaire. Ouais. On va se prêter au jeu, finalement. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ça a pris de nombreuses années parce qu'à l'époque, l'épuisement professionnel et le burn-out, les gens ne voulaient pas en parler. Les employeurs croyaient que si on parlait de ça dans l'organisation, à ce moment-là, les gens allaient en développer, allaient en avoir plus. Donc, c'était comme l'inverse de la prévention. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. On n'en parle pas. Puis, si on n'en parle pas, ben, ça n'arrivera pas.
Ce qui s'avère complètement faux, j'imagine.
Absolument. Absolument. Au contraire, là. l'épuisement professionnel puis la saine gestion de l'épuisement professionnel, il faut bien connaître ce que c'est que l'épuisement professionnel.
C'est ça.
Faut savoir exactement ce qu'on a à faire, il faut en parler, il faut prévenir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour prévenir.
Et sachant que, là, je dis à cette époque-là, là, je disais, je suis né, là, je suis pas en train de parler comme si c'était un dinosaure. Nicolas, je vais pas t'insulter en ouverture de podcast, mais... sachant que, mettons, l'épuisement professionnel était peut-être quelque chose qui était plus difficile à adresser dans le milieu professionnel, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à parler de ça?
Probablement que c'était ma maîtrise en psychologie clinique qui faisait que je voyais des gens qui souffraient d'épuisement professionnel, mais je faisais plus à l'époque, j'étais plus orienté sur les traitements des troubles anxieux, entre autres, des troubles de l'humeur, la dépression, puis des troubles de personnalité. C'était plus, ma formation était plus sur ces différents éléments-là. Puis lorsqu'on arrivait avec le traitement d'épuisement professionnel ou l'épuisement professionnel en tant que tel, bien souvent on disait, bien ça doit être une dépression ou ça doit être ce qu'on appelle un trouble de l'adaptation. Puis c'était pas vraiment spécifié. On avait un bon corpus théorique, là, donc une bonne idée de ce que c'était, mais son application dans le quotidien, là, quand on va voir le psychologue, puis on dit je souffre de A, B, C, D, E comme symptômes, qu'est-ce que je fais, docteur? Ben ça. On savait pas trop. On avait des bouts de technique qui étaient en lien avec l'humeur dépressive, le traitement de la dépression, d'autres bouts de technique qui étaient en lien avec le traitement de l'anxiété. Mais le construit était encore relativement neuf, puis il y avait encore beaucoup de travail à faire. Donc
rien de précis pour l'épuisement professionnel,
exactement,
précisément.
Exactement. Puis je dirais que même encore aujourd'hui, on sait plus, beaucoup plus où est-ce qu'on s'en va. Mais dans le traitement individuel, il y a encore des aspects un peu nébuleux. Il n'existe pas, il existe au niveau expérimental, au niveau, quand on fait des expériences chez certains chercheurs, il existe des protocoles de traitement, mais si quelqu'un va aujourd'hui puis va chercher chez Renaud Bré, par exemple, une bibliothérapie, donc un traitement spécifique pour l'épuisement professionnel, ben il trouvera pas. Donc, les psychologues peuvent faire, parce que c'est leur travail, hein, de trouver, de bien appliquer toute la recherche scientifique, de l'appliquer à l'individu chez qui l'individu qu'ils ont en face d'eux, mais c'est pas disponible comme ça. C'est pas si simple, le traitement d'épuisement professionnel.
Et dans... Moi, quelque chose qui m'a toujours fasciné, en tout cas, je trouve que les psychologues, comment toi, t'appliques ça dans ta vie à toi?
C'est une bonne question. C'est une excellente question. Je l'applique vraiment de la même façon que ce que je demande à mes clients.
C'est ça.
Donc, c'est une hygiène de vie, entre autres, qui est extrêmement importante. La base, probablement, de la prévention de l'épuisement professionnel, c'est de développer une hygiène de vie au travail également, qui fait du sens.
Quand on dit hygiène de vie, c'est, j'imagine, même à la base, se nourrir, boire de l'eau, l'environnement de travail, les heures précises, mettre ses limites.
Absolument. Il y a ce qu'on sait, ce qu'on connaît, on a tous un petit peu des bons réflexes par rapport à ça, faire du sport, bien manger, faire attention à sa santé. Ouais. Ça, c'est de l'hygiène de vie un peu générale. Ensuite, l'hygiène de vie au travail, qui est un petit peu plus spécifique. Donc, par exemple, après, on travaille 2 heures, puis après 2 heures, on prend un 10 ou un 15 minutes de pause. On prend toujours nos dîners. Donc, par exemple, on prend 1 heure de dîner où on dîne, où on fait également une activité qui n'est pas en lien avec les activités professionnelles. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être de lire un article sur une passion ou quoi que ce soit, ça peut être d'écouter de la musique, donc quelque chose d'autre avant de recommencer. Ensuite, en soirée, on se place dans nos soirées des activités qui vont permettre la récupération de mon cerveau. Mm-hmm. Donc je vais devoir faire des activités qui sont pas liées à mes intérêts professionnels.
Okay.
Prendre des vacances. Je vais prendre des vacances, un certain nombre de semaines de vacances durant l'année.
Ouais.
Donc ça, c'est l'hygiène de vie professionnelle où je dois garder un certain équilibre pour pouvoir bien fonctionner, pour pouvoir bien faire mon travail, pouvoir faire plusieurs choses, plusieurs tâches différentes. Donc, puis ça, c'est clair que je les applique et puis je les applique personnellement. Puis également, quand peut-être on glisse un peu parce que ça nous arrive tous de temps en temps de pas faire exactement ce qu'on pourrait faire ou ce qu'on devrait faire entre parenthèses. Mais à ce moment-là, quand il y a des drapeaux rouges qui se lèvent, ben je les observe. Puis comme ce que je dis à mes clients, ben quand les drapeaux rouges se lèvent, on commence à faire attention.
C'est ça. Parce que aussi, j'imagine que ça. Les entreprises avec lesquelles tu as travaillé, je ne sais pas si tu as travaillé avec plusieurs entreprises, mais mettons dans ton corps d'études au départ, j'imagine certaines entreprises, des fois, faire, ben là, attends, faut quand même que ça soit productif, faut que ça roule. Comment on réussit à vivre dans la société qu'on est, qu'on a du moins, là, avec la productivité, les attentes et de permettre ça à ses employés? Mettons, je me mets du côté de l'employeur. Ouais. Je pense que j'ai pas d'employé à ma charge, heureusement. Ça n'irait pas bien. Mais je suis très ouvert à ça personnellement. Donc, je suis très d'accord avec toi, mais je peux croire qu'il y a des personnes sans être des tyrans, mais qui sont comme, là, attends, là, tu sais.
Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là?
Mais je pense que c'est important de comprendre que, les organisations ont beaucoup évolué depuis 30, 40, 50, 60 ans. Puis parfois, on a des croyances qu'on pouvait avoir à une certaine époque, qu'on pouvait avoir dans les années 50, 60, même avant ça, qui se sont transmises par la culture et puis qui peut-être s'appliquaient à une certaine époque, mais ne s'appliquent plus aujourd'hui. Le meilleur exemple, la question de la productivité. Ça fait des années qu'il y a beaucoup de patrons d'entreprises qui ont peur du télétravail. Qui croient que les gens vont être beaucoup moins productifs si on surveille pas leurs tâches de près. Puis ça, peut-être dans les années 30, dans les années... quand on était sur de la production, de la productivité sur des machines, puis qu'on devait produire 60 unités, 60 chandails par heure, peu importe. Ouais. Là, à ce moment-là, oui, peut-être que c'était bien approprié comme croyance, comme façon de faire. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a vu dans les 6, 7, 8 derniers mois, quand on a tous été obligés d'aller vers le télétravail, et puis qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup d'emplois, dans beaucoup de professions, les gens étaient aussi productifs à la maison qu'ils pouvaient l'être au travail. On a testé ce qu'on avait déjà vu dans les organisations, OK, que les industries ont changé. Et puis, dans chacune des industries, il y a des préceptes, il y a des croyances qui s'appliquaient peut-être il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui aujourd'hui ne s'appliquent plus dans des industries qui sont basées sur le savoir, entre autres, et puis où on a des moyens technologiques comme ceux qui sont présents aujourd'hui. Des moyens technologiques, bien sûr, qu'on doit gérer, qu'on doit apprendre à bien gérer, mais quand même, des moyens technologiques qui changent la donne. Donc, à partir de là, c'est important de présenter à ces gestionnaires-là, de leur présenter la différence qu'on voit aujourd'hui avec ce qu'on a appris il y a 50 ans, puis aujourd'hui. Donc, revenir à l'idée que une saine hygiène de vie professionnelle, c'est payant pour les employeurs également. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce qui est important. Puis on le voit chez certains employeurs, entre autres avec les politiques de vacances illimitées. Ça a été un élément extrêmement important. Donc ces gens-là ont compris que c'est pas parce que quand tu travailles en tant que tel, ben tu peux travailler, ton taux de productivité sur une heure de travail peut être à 30 % à 40 % à 50 % à 80 % Tu travailles pas une heure, c'est pas dichotomique, là. Quand tu travailles une heure, t'es pas nécessairement 100 % productif parce que tu travailles une heure. Hein, tu peux travailler à 30 % être dans l'une, regarder un petit peu ce qui se passe à gauche puis à droite, pas avoir de la difficulté à comprendre ce qu'on fait, ne pas être créatif quand on est trop fatigué. Fait que dans ce temps-là, ça me donne quoi? D'obliger un employé ou de demander à un employé de travailler, ça ne me donne absolument rien. Je suis bien mieux de le laisser se reposer, qu'il va revenir dans ma deuxième heure où il va être productif à 80, 85, 90 %, où là, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il produise.
Ouais.
Donc, comprendre ces préceptes-là là, de base, là, ça devient extrêmement important. Puis je pense que de plus en plus, les entrepreneurs, les entrepreneurs et puis les gestionnaires, les entreprises qui sont chapeautées par des bons départements de ressources humaines également, voient les données, voient la recherche que beaucoup de psychologues du travail font, entre autres, puis se collent à cette recherche-là pour justement améliorer la productivité des employés.
On devient quand même, j'ai l'impression de plus en plus doux avec l'être humain. Si, mettons, on revient à l'idée que, hey, dans le fond, c'est une entreprise, c'est des êtres humains qui travaillent. Ouais. Puis c'est assez... C'est assez simple de comprendre, ben de croire. Après ça, je comprends qu'un entrepreneur a une certaine pression,
oui.
Dont il est conscient, tu sais, en partant une entreprise, tu sais, oui. qui l'a. Mais c'est assez clair que si les individus qui travaillent pour toi vont bien, ils vont être plus aptes à t'aider à réussir.
Absolument.
Donc, et quels sont les, mettons. Je voulais qu'on parle un peu aussi de santé mentale parce que oui. je trouve que dernièrement, on en parle un peu plus, puis je trouve ça génial, mais des fois, j'ai l'impression que... est-ce que c'est une prédisposition ou c'est quelque chose qui se développe? J'imagine que ça dépend des cas.
Ça dépend de quoi on parle.
Okay.
Ça dépend de quoi on parle. Il y a des problématiques où il y a une prédisposition qui est claire. Je pense, entre autres, à la schizophrénie. Schizophrénie, il y a des aspects génétiques, il y a des éléments déclencheurs. On sait que certains comportements vont avoir des effets déclencheurs là-dessus. On sait, entre autres, la consommation, entre autres, de cannabis, d'autres substances également, mm-hmm. va avoir des effets déclencheurs sur la schizophrénie. Donc, il y a tout un pan... des problématiques de santé mentale où il y a vraiment des aspects génétiques qui sont très forts. On pense aux troubles bipolaires également.
C'est génétique aussi.
Absolument. Ça aussi, c'est un autre aspect où la génétique est très, très, très forte.
Et ça, on ne peut pas le savoir d'avance?
On ne peut pas le savoir d'avant. On ne peut c'est pas sûr. Savoir est-ce que ça va se déclencher ou non. C'est sûr qu'on peut savoir si quand plus on en a dans la famille, plus il y a ouais. de chances que. Mais on ne peut pas savoir d'avance est-ce que ça va se déclencher ou non. Un peu comme beaucoup de maladies aussi.
Ouais.
La sclérose en plaques, il y a un certain nombre de maladies importantes aussi où on peut avoir le gène, mais on ne sait pas si ça va se déclencher.
C'est ça. Ouais. Pour revenir sur la schizophrénie rapidement... J'ai entendu sûrement dans un podcast pas du tout professionnel, c'est la raison pour laquelle je te pose la question parce que là j'ai un professionnel devant moi. Est-ce que la consommation de cannabis, j'avais entendu que c'était plutôt relié à si il y a beaucoup de consommation avant 25 ans, dû au fait que notre cerveau est pas complètement formé avant l'âge de 25 ans. Est-ce ouais. que c'est vrai? Ça peut-tu être après aussi? J'imagine que oui.
Faudrait vraiment voir avec un spécialiste en schizophrénie ouais. parce que c'est multifactoriel en ce sens où la schizophrénie va habituellement se déclencher les premiers épisodes avant 25 ans. Peut-être même avant 30 ans, si jamais la personne est bien entourée, puis a pas beaucoup de stress, a pas beaucoup d'éléments, à ce moment-là, ça peut étirer jusqu'à 30 ans. Mais puis à travers tout ça, il y a de la consommation. Donc, est-ce qu'un facteur est plus important que l'autre dans le déclenchement? Ce qu'on sait clairement, c'est que les épisodes de schizophrénie, les premiers épisodes vont être déclenchés toujours à la début vingtaine. C'est okay. actuellement l'âge où ça se déclenche.
Pourquoi? On sait-tu? L'âge adulte, les responsabilités.
La maturation du cerveau et puis les premiers éléments où on peut vivre un certain stress.
Mm.
Donc, ça n'a pas de lien avec le stress. C'est pas parce qu'on vit du stress qu'on peut déclencher de la schizophrénie. Il ouais. faut vraiment dissocier ça des deux, mais c'est plutôt l'inverse. Si on a des facteurs génétiques qui peuvent nous amener à développer la schizophrénie, bien, à ce moment-là, il y a certains stress qui peuvent avoir un impact sur les premiers épisodes.
OK. Et là, comme on parle de santé mentale, mm-hmm. moi, souvent, j'essaie de... C'est pour ça que je voulais savoir si c'était... Il y a certaines maladies qui sont prédisposées. On appelle ça des maladies, donc la schizophrénie.
Ouais.
Celles qui sont... qui n'ont pas de prédisposition, celles qui ont...
Ouais.
Ça vient d'où? C'est lesquelles?
Si on parle des troubles anxieux, par exemple.
Ouais.
Donc, le trouble anxieux... on va naître avec une certaine sensibilité à l'anxiété. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a certains enfants qui vont ressentir un petit peu plus fortement des symptômes d'activation de mon système nerveux sympathique qui est en gros l'anxiété. Donc, je vais ressentir un peu plus cette émotion-là. Je vais avoir un peu plus de symptômes de cette émotion-là. Puis, il y a des gens qui vont apprendre à le gérer, qui vont bien le gérer, puis d'autres qui vont développer des troubles anxieux, donc qui vont développer une mauvaise mécanique de gestion de ces, de cette sensibilité-là. Okay. On a une sensibilité, par exemple, à l'anxiété. On peut avoir une sensibilité à la tristesse. Donc, où là, c'est plus du côté de l'humeur dépressive que ça va se développer. Même chose avec la colère. Donc, il y a certaines émotions. On a tous des émotions.
Ouais.
Ces émotions-là sont présentes chez tout le monde, mais pour certaines personnes, on va naître avec une certaine sensibilité à certaines de ces émotions-là. Donc, de là, on a plus de risques. Par exemple, dans le cas du trouble anxieux, on a plus de risques de développer un trouble anxieux, que ce soit un trouble panique, un trouble d'anxiété généralisée, de par cette sensibilité-là. Mmh. Donc, faut mieux s'outiller quand on a cette sensibilité-là, mais ça ne veut pas dire qu'on va développer un trouble anxieux,
okay,
en tant que tel. Donc, on a une sensibilité, puis on peut, il y a des moyens de la contrôler.
Oui, des moyens, j'imagine, aller en psychothérapie, entre autres.
Absolument. Bien connaître ce qui se passe, bien connaître cette sensibilité-là. Et puis, une fois qu'on la connaît, puis ça fait partie de l'éducation générale qu'on pourrait faire à tous les enfants dans les écoles. Là. De dire, il y a peut-être certaines émotions qui, pour chez toi, sont plus fortes. C'est correct, ça fait rien, ça fait pas de toi quelqu'un de problématique ou quoi que ce soit, mais il faut faire attention à la façon de gérer ces émotions-là. Donc, quand on parle de troubles anxieux, par exemple, faut reconnaître les symptômes, faut savoir que quand notre cœur commence à battre puis on sait pas trop pourquoi, c'est pas dangereux. Hein? C'est juste mon cœur qui commence à battre plus rapidement, j'ai perçu une menace, il y a quelque chose dans mon environnement qui a parti ça. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que je vais mourir. Ça ne veut pas dire que je vais m'évanouir.
Ouais.
De bien connaître la mécanique, ça va permettre à l'enfant justement de se développer à travers ça, puis de développer des bonnes perceptions. Parce que si dans un trouble anxieux, par exemple, si j'ai en plein milieu d'une attaque de panique ou d'une crise d'angoisse, si je sais que c'est une crise d'angoisse, je sais que ça ne peut pas dégénérer plus, c'est un moment désagréable. Je vais passer à travers ce moment désagréable-là, mais si je le comprends, je sais que ça a un début, un milieu puis une fin. Donc, ça me permet de passer à travers ce moment-là sans nécessairement développer une crainte trop importante que ça revienne, puis développer d'autres troubles, des troubles anxieux secondaires.
Pour quelqu'un moi, j'ai eu la chance de jamais vivre de crise de panique, ouais, ou de crise d'angoisse, mais je sais que j'ai des amis ça en a pris 3, 4, 5, 10, des fois plus, avant de comprendre justement, de comprendre, là, en ce moment, ce que je vis, c'est une crise d'angoisse. Donc, la panique est moins là, dans le sens ton corps panique, mais t'es capable d'intellectualiser ce que tu vis. Exactement. Qui fait que pour quelqu'un qui n'aurait jamais vécu ça, c'est quoi une crise de panique ou une crise d'angoisse? Comment ça se passe dans le corps?
Une crise de panique, c'est vraiment mon cerveau qui perçoit une menace extérieure puis qui va réagir exactement comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement menaçant à l'extérieur de lui. Donc, moi, je donne souvent l'exemple que c'est d'arriver face à face avec un ours dans une forêt.
Mm.
Puis comment est-ce que je me sens quand j'arrive face à face à un ours? Donc, face à un ours, mon cerveau dit, l'ours, danger, merci beaucoup, gros danger. Donc, on va s'activer pour pouvoir mettre mon corps dans une forme optimale pour pouvoir soit me battre avec un ours, ce qui est souvent moyen comme stratégie, ou me sauver le plus rapidement possible.
Ouais.
Mais peu importe ce que je choisis, mon corps doit être dans une forme optimale pour pouvoir survivre puis pour pouvoir passer à travers la prochaine demi-heure, si on veut. Donc, mon cœur va commencer à battre très, très rapidement. Mon cœur, c'est une pompe. Donc, la pompe, le but de la pompe, c'est d'envoyer du sang, de faire circuler le sang rapidement. Je vais commencer à respirer aussi. Mon débit de respiration va augmenter. Pourquoi? Pour avoir de plus en plus d'oxygène dans mon sang. Oxygène dans mon sang qui s'en va de plus en plus rapidement grâce au cœur dans les muscles. Les muscles qui ont besoin d'oxygène pour fonctionner de façon adéquate. Donc, les muscles vont se remplir de sang. Tout ça pour être prêt à faire face à une menace. Donc, dans ce cas-là, un ours. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut être quelqu'un dont j'ai peur dans la rue pour x, y raison. À 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui me suit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le cœur commence à battre. Et puis là, je me prépare soit à courir, soit à me retourner.
Ouais.
Donc, même chose, je dois être toujours dans une forme optimale. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe dans une attaque de panique. Dans une attaque de panique, mon cerveau a perçu quelque chose. Puis parfois, ça va être des sensations. Hein? Ça va être un petit... toujours dépendamment là, des différentes problématiques. Là. Mais parfois, ça peut être des sensations corporelles. Donc, je développe une certaine peur de cette réaction-là. Donc, à partir du moment où mon cœur bat un petit peu plus rapidement, ben ma peur, ce qui va être menaçant, ça va être « Oh, et si je faisais une attaque de panique, je pourrais mourir. »
C'est ça.
Puis là, ça part. Donc, j'ai peur. C'est pas qu'on dit souvent avoir peur d'avoir peur.
Ouais.
C'est un peu ça. C'est j'ai peur de la réaction physiologique qui est parfaitement normale. C'est ça qui est très, très intéressant. C'est que cette réaction physiologique-là, elle est très adaptée puis elle est parfaitement normale. Donc, je développe une peur de cette réaction-là.
C'est fascinant. Évidemment, c'est vraiment désagréable pour les gens qui vivent ça, ouais. Même que c'est inquiétant pour certaines personnes, ça fait peur. Mm-hmm. Mais le corps humain est fascinant. Ouais.
Mais le cerveau aussi, à travers tout ça, est fascinant parce que cette réaction-là, ce que nous, on sait, les psychologues, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai, les gens ont peur, les gens sont mal à l'aise, les gens se demandent ce qui se passe. Mais cette réaction-là, elle est moins forte que la réaction physiologique, l'activation physiologique qu'on a quand on joue au basketball.
C'est vrai?
Quand je fais du sport, c'est plus fort que ma réaction dans une attaque de panique en tant que telle. Puis pourquoi? Parce que la différence, c'est mon cerveau, d'un côté, il est capable d'expliquer que je suis en train de courir après le ballon, faire une passe, puis je suis actif, mais il n'est pas capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a peur comme ça. Donc, une grande partie, puis c'est pour ça que la thérapie cognitivo-comportementale, entre autres, est si efficace pour les troubles paniques, c'est que ça nous permet d'expliquer ce qui se passe dans notre corps. Puis une fois que la personne a bien compris ce qui se passe, puis ensuite, tranquillement, va s'exposer, donc se mettre dans des situations où tranquillement, elle va se désensibiliser à ces sensations-là, c'est comme ça qu'on va réussir à régler puis à se ramener à un niveau normal où on comprend que ces attaques-là sont certes très désagréables, mm-hmm. mais elles ne sont pas dangereuses.
Il y a quelque chose... là-dedans, mais que tu as dit tantôt aussi, tu parlais d'éducation au niveau des jeunes. Ouais. Moi, j'ai 29 ans. Ça fait peut-être, trois ans, mettons, que je vais consulter sporadiquement selon mes besoins, selon comment je me sens. Et ça me fait un grand, grand bien. Puis souvent, je le réalise, évidemment, dans le moment, en quittant le bureau de ma psychologue ou de mon psychologue.
Oui, c'est pas moi, d'ailleurs.
Non, c'est ça, on le mentionne, évidemment. D'ailleurs, à chaque fois que je parle d'eux autres, je suis tout le temps comme Colin. Je sais qu'eux, ils n'ont pas le droit de parler de moi, mais je ne sais pas si moi, j'ai le droit de parler d'eux, tu sais. Mais souvent, évidemment, dans le moment, il m'est arrivé de quitter le bureau et de ressentir, évidemment, tout de suite un grand calme, un genre de. Oh, OK, c'est ça. Comme je suis rentré là chargé, t'sais, un peu pogné, puis là, je sors un peu plus détendu. Même que pas prendre la voiture tout de suite à faire, je vais prendre une petite marche, question de... T'sais, on dirait que ça me fait du bien. T'sais.
Ouais.
Mais souvent, j'ai réalisé le grand, grand bien quelques mois plus tard, ou la journée où j'ai rencontré sensiblement le même problème ou une situation qui m'a amené à aller consulter au départ. T'sais. Bon, je suis somme toute assez jeune pour aller consulter. Je suis dans ma vingtaine. Mais ça pourrait se faire plus tôt que ça encore, j'imagine?
Ah oui, ouais, absolument, absolument. J'ai des jeunes qui débutent, pour les problématiques d'anxiété, d'épuisement, et puis les facteurs personnels qui tournent autour de ça, souvent, la première étape, il y a des étapes dans la vie où ça va se déclencher. Là. Pour l'épuisement professionnel, entre autres, il y a des étapes qui sont plus difficiles que d'autres pour chacun. Puis la première étape où on peut faire face à ça, ça va souvent être le passage à l'université. Donc, la pression de la performance, l'université, ben c'est pas facile pour tous. Il y a des gens pour qui ça se passe très bien et au niveau scolaire et au niveau financier, mais il y a d'autres pour qui, ben, au niveau financier, c'est pas nécessairement les parents qui payent. Ils ont parfois deux emplois. Ils veulent entrer parfois dans des programmes. Là, je pense aux avocats, je pense aux médecins, mm-hmm. je pense aux psychologues. Ils veulent rentrer dans des programmes qui sont relativement contingentés, donc doivent avoir des performances scolaires assez élevées. Donc ça c'est souvent le premier goulot d'étranglement, le premier moment où, oups, on va se rendre compte qu'on a besoin d'aide, qu'on a de la difficulté à y arriver. Puis, donc, dès ce moment-là pour certaines personnes. Puis ensuite, selon différentes étapes de vie, bien, les gens vont consulter parfois à 25 quand on va se mettre en couple, parfois à 30 quand on va commencer à se questionner peut-être sur la carrière ou sur le couple, sur la famille, quand tes enfants arrivent, mm-hmm. quand tes enfants partent. Donc,
ouais.
il va y avoir différents moments, mais une chose qui est claire, une chose que moi j'ai vue, j'ai commencé à pratiquer, donc mon permis c'est 2001, mais disons que j'ai commencé à pratiquer réellement, là, à voir vraiment là, 2003 à aujourd'hui, donc 2003 à 2020, l'évolution des mentalités, là, elle est claire.
Ouais.
claire là, au début, particulièrement chez les gars.
Ah oui,
chez
hein?
Chez les gars, là, c'est très, très clair. Là. Donc au début, là, 2003, 2004, 2005, là, j'avais peut-être 10, 20 %
De tes patients,
de mes patients qui étaient des hommes.
C'est tout.
Puis c'est tout.
Hey, c'est petit 10 % là.
Ouais, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment, je suis vraiment à 50-50, mais peut-être un petit peu plus de gars que de femmes.
C'est vrai.
Mais surtout des plus jeunes.
Ah
surtout
oui?
Surtout des plus jeunes.
OK,
parce
c'est
que
ça.
Pour les plus jeunes, maintenant, aller voir le psychologue, c'est comme aller voir son comptable, c'est comme aller voir un avocat, c'est comme aller voir... C'est quelqu'un qui va me donner un coup de main sur une problématique que je connais pas nécessairement, dans laquelle il y a des experts. Fait qu'il y a des experts qui m'ont donné un coup de main, je vais les voir, et puis c'est tout.
Exact. Moi, c'est exactement comme ça que je le vois. À un moment donné, je me suis engagé à un entraîneur personnel
voilà.
pour prendre soin de mon ouais. corps. Puis ouais. j'étais comme, ben, je vais aller voir un psychologue pour aller prendre soin de l'intérieur de mon corps, ouais. de ma tête, mon cœur, mon esprit ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'était la même chose. C'était ma santé physique, mm-hmm. émotionnelle. Pour moi, tout ça était relié.
Ouais.
Et je sais qu'il y a différentes approches en psychothérapie.
Ouais.
C'est quoi les différentes approches?
Il y a trois grandes approches qu'on pratique au Québec. Donc, il y a d'abord l'approche psychodynamique. Donc, approche psychodynamique, c'est une approche qui est inspirée beaucoup des travaux de Freud, donc de la psychanalyse.
Donc, l'enfance.
Donc, il y a une partie d'enfance. Il y a une certaine importance dans l'enfance, mais c'est surtout la plus vieille école de psychothérapie. Ça fait au-delà d'une centaine d'années que la psychanalyse existe. Donc, c'est un peu la base de la psychothérapie, de la psychologie psychothérapeutique individuelle. Il y a un côté historique très, très intéressant par rapport à la psychodynamique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, cette psychanalyse-là s'est transformée en psychodynamique. On travaille beaucoup sur les conflits. On postule que les difficultés qui sont vécues aujourd'hui sont en lien avec des conflits qui se sont développés souvent, comme tu le disais, dans la petite enfance. Puis que le travail du psychologue, c'est vraiment d'aider la personne à faire émerger ces conflits-là, avoir des liens entre ce qui se passe aujourd'hui puis ces conflits-là qui ont été plus présents, qui se sont développés dans la petite enfance. Et puis, l'interaction avec le psychologue, elle est particulière, en ce sens où le psychologue va interagir avec la personne, mais de façon un peu minimale. Donc, il va avoir des discussions, mais on revient beaucoup à la personne, ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était plus jeune, puis ses conflits internes-là. Ça, c'est une première grande approche qu'on a. Puis, bien sûr, ce que je dis, là, c'est un
résumé, là.
On est
sur un podcast sur YouTube, là, Nicolas. Il n'y a personne qui va t'en tenir rigueur.
Gros résumé, parce qu'il y a plusieurs approches théoriques à l'intérieur.
C'est
certaines
clair.
Qui vont interagir plus que d'autres. Certaines qui interagissent, où il va y avoir très, très peu d'interactions. Mais de façon générale, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est les conflits qui se développent dans la petite enfance. C'est l'aspect important.
Donc, c'est de trouver dans le fond, un conflit qui est arrivé quand on était plus jeune,
certains
possiblement.
Conflits qui ont développé notre relation avec les autres. Puis aujourd'hui, on essaie de voir les liens entre ces conflits-là pour pouvoir mieux comprendre puis mieux agir sur
parce que probablement que ça a fait développer des genres de réflexes
ouais.
inconscients ou conscients.
Exactement.
Par rapport à... Dès qu'on vit ça, mais techniquement, c'est arrivé il y a 25 ans. Puis c'est de là que ça vient un peu.
Exactement.
OK, parfait.
Exactement.
Ça, on appelle ça psychodynamique.
Psychodynamique.
OK.
Deuxième grande approche, l'approche humaniste.
Ouais.
Dans cette approche-là, en gros, on postule que les gens ont en eux toutes les ressources pour faire face à n'importe quelle situation dans leur vie. Donc, le travail du psychologue, ça va être d'échanger avec cette personne-là, d'orienter la personne vers certaines solutions lorsqu'il perçoit que ces solutions-là seraient les bonnes, que ça va aider la personne. Mais il n'apporte rien de son savoir en tant que tel. C'est okay. pas le travail du psychologue d'amener ce que lui pense, ce que la recherche pense ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'aider la personne à trouver les solutions à ses difficultés. Donc là, on est plus dans la psychologie humaniste.
Ouais.
Deuxième grande approche.
Donc l'humain a ses propres réponses. Le psychologue agit plus comme il pose des questions.
Souligne parfois au crayon gras quand il y a l'impression qu'on va dans la même direction en subtilité, quand il y a l'impression qu'on va dans la bonne direction en subtilité. Donc ça, c'est l'approche humaniste.
Ouais.
Ensuite, cognitivo-comportementale, donc approche qui est basée sur toutes les théories de l'apprentissage, donc toute la littérature scientifique sur les théories de l'apprentissage. Donc, en cognitivo-comportementale, on postule que les difficultés qui sont vécues aujourd'hui sont en lien avec des façons de voir les choses, des façons de faire les choses, des façons de ressentir les choses. Donc, tout va tourner autour de, on dit thérapie cognitivo-comportementale, donc cognitif pour les pensées, ma façon de voir les choses, comportementale pour ce que je fais.
Mm.
Et puis, il y a les émotions aussi qui sont extrêmement importantes dans ça, donc ce que je ressens. Fait qu'on va beaucoup travailler avec le comportement, la pensée, émotion, comportement, donc ce que je me dis, ce que je ressens, ce que je fais. Et puis, on se base beaucoup sur... Le psychologue va beaucoup se placer comme un expert en savoir scientifique.
OK.
Donc, le psychologue, c'est l'expert de la psychologie scientifique. Le client, c'est l'expert de la psychologie pratique. Pourquoi? Parce que la psychologie scientifique, on a des grandes théories qui sont prouvées en laboratoire sur 500 personnes, 2000 personnes, qui sont bien intéressantes, mais sur un phénomène spécifique isolé.
Ouais.
Alors que la personne qui est en face de nous, ben, elle est complexe, elle a vécu plein de choses, donc elle n'est pas ce phénomène isolé-là.
Mm-hmm.
Donc, notre travail, c'est beaucoup de faire le lien entre le savoir scientifique puis l'application dans la vie de la personne en face de nous, selon ses buts, selon ses objectifs, selon ce qu'elle veut accomplir. Fait qu'on va regarder ensemble des modèles, par exemple, qui ont été prouvés, qui fonctionnent bien de façon générale, puis on va s'asseoir avec la personne puis dire, bien, ce modèle-là, est-ce que tu penses que ça peut s'appliquer dans ta vie? Est-ce que pour ton trouble panique, bon, si on essaie de faire ça, ça pourrait fonctionner? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on met en place un plan, on met en place certaines stratégies. On va faire des tests avec la personne pour savoir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, ben, tant mieux, on continue. Si ça ne fonctionne pas, ben, on se réoriente. Donc, cet arrimage-là entre ces deux savoirs-là, le savoir appliqué puis le savoir scientifique, est vraiment à la base de la thérapie cognitivo-comportementale.
Et est-ce que chaque psychologue, est-ce qu'il peut jongler avec les trois approches dépendamment du client, ou habituellement le psychologue va plutôt choisir une manière de travailler puis dire, ben moi, si tu viens me rencontrer, c'est plus pour une approche humaniste?
C'est plus ça. C'est des approches tellement complexes qui demandent beaucoup d'années d'entraînement. Donc, habituellement, on est obligé par l'ordre des psychologues d'en maîtriser au moins deux.
OK.
Mais on a toujours une majeure très, très forte, puis une seconde pas très, très forte.
C'est ça.
Moi, dans mon cas, c'est cognitivo-comportemental qui est très forte,
okay.
Puis humaniste qui est un peu moins forte, puis je le reconnais, là, c'est vraiment, vraiment pas ma force. Il y a beaucoup de collègues qui sont très, très bons avec cette approche-là. Puis ça dépend des cas aussi. Il y a des cas, là, il y a des problématiques qui, en cognitivo-comportemental, vont très, très bien fonctionner. Alors, je parlais du trouble avec agoraphobie.
Ça fonctionne super
bien en cognitivo-comportemental. Mais de l'autre côté, une approche de deuil complexe, par exemple, bien là, c'est plus en psychologie humaniste que ça va être très, très efficace. Donc, ça dépend des problématiques. Ça va dépendre des clients aussi.
Ouais.
Il y a des gens qui, essayer de travailler avec les pensées, voir les choses d'une façon différente, ça va être plus difficile pour eux. Puis, ça ne sera pas la bonne approche de faire des devoirs, de s'exposer, de ce qui est l'approche plus cognitivo-comportementale. Puis, pour eux, ce sera plus l'approche psychodynamique, de retourner dans le passé, de retourner sur les différents conflits intérieurs qui vont être une bonne chose. Là.
Parce que le fait de revenir à la source peut possiblement les aider à voir différemment.
Ça dépend des objectifs.
Oui, c'est ça.
Il y a des gens qui viennent en psychothérapie avec l'objectif de juste mieux se comprendre, faire un travail intérieur. À ce moment-là, quand il n'y a pas de... de problématiques, de pathologies, de problèmes de santé mentale spécifiques, mais là, à ce moment-là, une approche comme une approche psychodynamique peut très bien faire le travail où on retourne dans nos relations, on réinterprète nos relations en fonction de ce qu'on a peut-être pu vivre quand on était plus jeune. Mm-hmm. Quand on est plus spécifique puis qu'on se dit, ben moi, je veux mon trouble panique, je veux que ça soit parti dans 12-15 séances, j'ai soit un budget limité, parce que oui, ça, c'est une autre affaire importante. Un budget limité ou j'ai un objectif spécifique. Des fois, j'ai déjà eu des clients phobie de l'avion, qui était représentant, puis qui devait être à Paris ou à Londres 3 mois plus tard parce qu'il venait de changer de poste. Ben, on a 3 mois pour régler cette problématique-là. Faut faire un bon plan d'intervention.
C'est tellement concret. Ouais. Souvent, je pense la perception que certaines personnes peuvent avoir, et c'est normal parce qu'on connaît pas beaucoup ça, mais de la psychothérapie, ça peut être quelque chose de bien, on jase puis c'est relax. Mais là, c'est un exemple tellement concret. Dans 3 mois, je dois prendre l'avion.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait? Fascinant. Ça me fascine. Je suis tellement content que tu sois là, Nicolas. J'ai plein de questions. J'adore ça. Je parlais de ça récemment avec quelqu'un où on parlait de, mettons, les fits dans la vie. Si, par exemple, mettons qu'on parle du couple, que je peux trouver quelqu'un dont les défauts et mes défauts, ça fonctionne.
Oui.
Ou quelqu'un qui vient un peu challenger mes défauts, qui fait que je travaille inconsciemment ou consciemment sur moi, et vice-versa. Est-ce que ça peut être la même chose en psychothérapie? C'est-à-dire que est-ce qu'encore une fois, c'est personnel faire... Ben moi, je suis un gars, par exemple, qui est assez confortable dans l'inconfort. Donc, d'aller m'asseoir avec un psychothérapeute qui utilise une technique qui est peut-être plus exigeante envers moi, ça va peut-être plus fonctionner que quelqu'un d'autre. Ou au contraire, je devrais aller vers quelque chose qui est plus en lien avec ce que je suis.
Ouais.
Quelque chose de plus doux, entre guillemets.
Oui, oui. Mais il y a beaucoup... Cet appariement-là, ce fit-là, là, est très, très important. Tu as parfaitement raison. Puis, ça va dépendre des approches, comme je le disais tout à l'heure. Ça va dépendre aussi de la personnalité de chacun des psychologues. On a beau être formé, on a beau essayer d'être le plus neutre possible, on a quand même tous une personnalité. Puis même quand on se compare entre collègues de la même approche... On sait quelles sont nos forces, qu'est-ce qu'il y en est. On a souvent quelqu'un avec qui on échange, pour nous, d'un autre psychologue, sur certains cas, pour être sûr qu'on n'en échappe pas.
Ouais.
Puis moi, j'ai une collègue comme ça avec qui je sais que elle, sa grande, grande force, c'est les émotions, la gestion des émotions. Puis moi, ma grande force, c'est le cognitif. C'est les pensées, la restructuration de pensées, des façons de voir différentes. Donc, quand j'échange avec elle, je sais que si je vais me faire ramasser sur quelque chose, ça va être l'émotion. Parce que c'est dans elle, elle excelle dans ça, puis moi, je suis moins fort dans cet aspect-là. Donc, fait que si j'ai un client, justement, qui vient me voir puis qui s'attend à ce qu'avec Chevrier, on oriente beaucoup sur l'émotion et puis un peu moins sur les pensées, ben mon premier réflexe, ça va probablement d'être sur les pensées parce que c'est ma force. Alors que avec ma collègue, ben si son expérience avec elle aurait probablement été différente parce qu'elle est beaucoup plus orientée vers l'émotion. Puis les deux composantes sont aussi importantes en cognitivo-comportemental. C'est juste que par réflexe, pour toutes sortes de raisons X, Y, Z. Des fois, c'est juste le nombre de clients que tu as vu dans ta vie. T'sais, tes premiers clients, pendant 6-5, pendant les premières années, est-ce qu'ils étaient plus orientés sur l'émotion, sur la pensée? Est-ce que tu as plus travaillé sur la restructuration des pensées, des façons de voir les choses d'une façon différente? Ou est-ce que tu as travaillé sur les émotions, exprimer ces émotions, tout ça? Ça va nous former chacun. Donc, à partir de là, c'est sûr que, toujours bien important, si ça ne fonctionne pas bien avec un psychologue, c'est pas la psychothérapie qui est le problème, c'est justement, comme tu le dis, peut-être l'appariement, le match qui fonctionne pas bien, puis on cherche quelqu'un d'autre à ce moment-là.
Absolument. Ouais. Est-ce que, quand tu parles des pensées, parce que il y a les pensées, il y a les émotions, il y a ce qu'on fait, donc les actions, les pensées, qu'est-ce qui délimite les pensées des émotions? Parce que est-ce que c'est les émotions qui, entre guillemets, lead les pensées? C'est-tu l'inverse? On le sait-tu? Ça dépend-tu du monde?
La grande majorité. Il y a des exceptions. Mais quand on parle de nos pensées, c'est le résultat du traitement de l'information que j'ai faite dans un environnement X, Y, Z avec mes connaissances, mes règles, mes schémas. Donc, une fois que je vais avoir fait une évaluation de la situation, il va y avoir une pensée, donc un constat. C'est ce qu'on se dit, c'est le discours intérieur.
Ouais.
C'est ce discours intérieur-là qui va provoquer ensuite mon émotion.
OK. Donc, ça part des pensées. Quand
ça part des pensées.
OK.
Ça part des pensées. Maintenant, il y a un 5-10 % il peut y avoir des émotions qui vont être associées, par exemple, associées à des souvenirs ou à des aspects olfactifs, à des odeurs, où là, on est dans quelque chose de différent un peu. Mais de façon générale, là, 95 % du temps, là, dans notre vie cognitive, là, j'ai une pensée, puis ensuite, de ma pensée, ensuite, va naître une émotion.
Et ensuite, va naître une action.
Exactement. Dépendamment toujours de mon constat, donc de ma pensée en tant que telle, du contenu de ma pensée. D'où l'importance de prendre conscience de tous les aspects de la pensée en tant que telle. Donc, s'assurer que je fais un bon traitement d'information, s'assurer que je pense, j'utilise toutes les preuves autour de moi quand je fais des opérations, quand j'analyse une situation. Donc, d'avoir une saine gestion de mes pensées.
Et est-ce que... c'est vrai qu'on peut changer un peu dans le sens, est-ce que ça dépend? J'imagine qu'être conscient qu'on... Quand on... Tu sais, soit on va dire, être conscient de tel défaut, de tel réflexe qu'on a, juste le fait d'être conscient, c'est le premier pas vers... Est-ce qu'on peut vraiment modifier la manière qu'on pense?
Absolument.
Ça se peut?
Absolument. Absolument, ça se peut. Puis même en psychothérapie, c'est une grosse partie de ce qu'on veut faire. Donc, on veut se débarrasser de mauvais réflexes de pensée qu'on a pu développer avec le temps, mauvais réflexes de traitement de l'information, pour arriver à une pensée qui est plus collée sur la réalité, qui est plus, je dirais pas pure, mais qui est plus...
lucide.
Réaliste.
Réaliste,
OK. Une pensée qui est réaliste, donc qui représente bien la réalité. Parce que je veux que mes émotions représentent aussi la réalité. Donc, je veux que mes émotions soient le plus collées possible sur la réalité. Puis pour ça, j'ai besoin de faire une bonne analyse de la situation.
Absolument. Et je suis vraiment content. J'aime tout ça. J'apprends plein de choses parce que j'essaie... tu sais, on dit souvent le but, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Donc, il n'y a pas un humain zéro que vous essayez d'amener vos patients. Au contraire, c'est toujours... Vous partez du patient puis essayez de l'accompagner le plus possible dans son cheminement à lui. Parce qu'à un moment donné, je pensais à ça puis j'étais comme... L'idée, c'est... On est tellement différents.
Ouais.
C'est tellement complexe, l'être humain.
Ouais.
C'est ça, je me disais... Moi, je vois... Je sais même pas si on voit la même couleur, tu sais. J'ai aucune idée c'est quoi... voir avec tes yeux ou ressentir. Fait que de là, l'idée de... En tout cas, je pense que je suis empathique dans la vie, mais je la travaille encore plus parce que j'ai aucune idée c'est quoi que l'autre vit réellement.
Absolument.
T'sais? L'empathie dans tout ça, je sais que les psychothérapeutes, vous en avez besoin. Y a-t-il une limite à ça? Est-ce que ça peut être... Comme c'est quoi ta perception de l'empathie? Je sais que c'est peut-être large comme question. Là,
mais est-ce qu'il y a une limite dans le sens où...
C'est que des fois, je me pose la question à savoir si c'est dur d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est méchant. Mais si, mettons, je pense au projet collectif, qui est la société dans laquelle on est, techniquement, si je pense humainement, l'idée serait d'être le plus empathique possible avec tout le monde. Ça veut pas dire...
Oui, mais on reste quand même... tu sais, si on prend les psychologues, on reste quand même, en arrière de tout ça, des êtres humains qui ont vécu des choses, qui ont eu des contacts avec certaines personnes la fin de semaine ou quoi que ce soit. Là, cette personne-là méchante ou mal polie ou égocentrique ou désagréable, je l'ai peut-être croisé samedi puis il m'a peut-être envoyé promener. Donc, je me souviens peut-être là, de ce type de comportement. C'est quoi l'impact sur les autres? Donc, oui, on a de l'empathie, mais en arrière de tout ça, on a chacun nos forces, nos faiblesses, des choses qu'on tolère, des choses qu'on tolère moins.
C'est ça.
Puis ça va finir par transparaître. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui on a beaucoup plus d'empathie que d'autres. Puis il y a des gens pour qui, on a moins, voire pas d'empathie. Est-ce que ça va affecter notre travail? Moi, dans mon approche, non. Je vais être tout aussi efficace que je sois empathique ou non. Il y aura peut-être des moments, si, y aura peut-être des moments si on glisse vers, vers certaines situations plus spécifiques où je serais peut-être moins efficace. Là, j'y pense en même temps, là. Mais de façon générale, ça ne devrait pas changer mon travail.
Donc, c'est un peu comme si ton empathie, tu la mettais derrière ton rôle de psychologue parce que le, ta manière, ton approche psychothérapeutique, c'est comme c'est connu. Oui. Tu peux quand même utiliser les mêmes outils.
Je peux utiliser les mêmes outils. L'empathie en arrière de ça, ça va être un plus. Ça va être bon dans ma relation avec le client. Ça va être bon dans la motivation du client. Donc, c'est un des ingrédients fondamentaux de ça. Mais tu vois, un des éléments, moi, un des éléments avec lequel je suis assez à l'aise, puis c'est pas tous les psychologues qui sont capables de le faire, c'est de travailler avec des gens qui ont des troubles de personnalité ou des traits de personnalité narcissiques.
Donc ça, pour quelqu'un qui a jamais entendu ça, c'est quoi les grandes lignes de quelqu'un qui a un trouble narcissique ou un trouble de personnalité?
Ce serait un trouble de personnalité, t'as raison de vous spécifier ça.
Donc, mais je suis là pour ça.
Non, mais c'est clair.
Il n'y a pas de problème.
Donc, trouble de personnalité, ça, c'est une classe de difficultés que les psychologues vont traiter, qui est beaucoup en lien avec les relations interpersonnelles. Donc, quand on rencontre quelqu'un dans notre entourage ou qui a des difficultés dans sa relation interpersonnelle, qui finit par être seul ou qui n'est pas nécessairement la personne la plus appréciée du groupe, souvent, il va avoir des éléments, des traits qu'on dit de personnalité. Mais en gros, ce que ces traits-là vont nous amener ces gens-là à faire, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de déceptions, et puis le fonctionnement, l'adaptation avec les amis, avec les collègues ou au travail, ça va être extrêmement difficile.
Okay.
Donc, dans le cas des gens qui souffrent de personnalité narcissique, c'est des gens qui n'ont pas d'empathie pour les autres. C'est des gens qui pensent beaucoup à eux, qui vont prendre beaucoup, beaucoup de place, qui vont être beaucoup dans une dynamique de dominance avec les autres. Donc, eux, peu importe où ils sont, ils doivent dominer. Ils doivent démontrer qu'ils sont le mâle alpha, qu'ils sont qui est le plus fort, qui est prêt à écraser l'autre, prêt à ne pas faire attention aux gens autour de nous, puis justement, ne pas avoir d'empathie avec les
puis
autres.
Ça... À l'âge adulte, des fois, évidemment, mettons, un enfant peut être comme ça. Tu sais, là.
Oui, mais un enfant. Oui, l'enfant est en modelage.
OK, fait que c'est pas que. Ça, c'est justement, on parlait tantôt de quelque chose qui est plus acquis ou qui est.
Oui, non, c'est pas dans ça.
C'est pas. Ah,
non.
Le narcissisme, ça se développe.
Ça se développe, ça va se développer dans certains environnements. Parentaux. C'est plus sûr hostile, que la façon des interactions avec les parents, tout le phénomène des enfants rois à une certaine époque, on en parlait, c'est sûr que ça, c'est des antécédents.
Ah oui,
donc,
hein?
Oui, absolument, c'est des antécédents. Donc, à ce type de personnalité-là, donc avoir l'impression qu'on est un petit peu le centre du monde, le centre de l'univers, puis des autres comptent pas vraiment. C'est sûr que ça va se développer à partir de ça. C'est sûr aussi qu'avec les médias sociaux, avec Facebook, avec Instagram, avec toute cette dynamique-là de la culture, justement, là,
des likes, du regard des autres sur soi.
Les images, la manipulation de l'image, on est beaucoup dans ça. Puis, on a beaucoup vu les chercheurs sur des personnalités narcissiques, entre autres aussi, beaucoup aux États-Unis, là, mais je pense qu'il y a une certaine similarité avec ce qui se passe au Québec, mais on a vu à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui là, une montée des problématiques narcissiques, des traits de personnalité narcissique. Assez que certains chercheurs qui parlent d'une épidémie de traits de personnalité narcissique, épidémie du narcissisme dans plusieurs universités. On a constaté ça aux États-Unis, puis c'est un phénomène où les psychologues, on est quand même assez conscients de ça. Donc
oh mon Dieu.
Avec Instagram, avec Facebook, les médias sociaux, ben ça potentialise tout ça. Puis il y a aussi une culture qui est venue dans les générations un peu avant. On parlait d'enfant roi, mais chacun est spécial, chacun est extraordinaire, chacun est meilleur que l'autre. Chacun, tu sais, cette espèce de culture-là qui peut planter certaines graines dans la personnalité de certains enfants où il y a moins d'empathie par rapport aux autres, puis plus de... d'un certain besoin de dominer les autres puis de démontrer qu'on est le meilleur.
Évidemment, je suis pas parent et c'est facile donc pour moi, évidemment, de regarder un parent et faire « Voyons, tu peux pas faire ça, mais j'ai aucune idée ce que c'est, donc je me tais à chaque fois. Mais j'imagine que ça doit être dur des fois aussi pour un parent de faire, ça doit être spécial cet amour-là pour son enfant qui fait en sorte que naturellement, dans tes yeux à toi, c'est le meilleur, puis tu veux l'aimer, mais des fois, c'est mal l'aimer, donc, si je comprends bien.
C'est pas à son avantage. Puis souvent, ce qui va se passer dans ces situations-là, c'est que cet enfant-là, dans la perception du parent, ça va souvent, le parent lui-même va avoir certains aspects narcissiques.
Okay.
Cet enfant-là va devenir l'extension du parent. Donc, l'extension de cet aspect-là narcissique du parent. Donc, quand on dit de l'extension, ce qu'on veut dire, c'est que si l'enfant paraît mal ou a des mauvais résultats scolaires ou fait le pitre dans une réunion familiale, ben le parent va avoir l'impression que c'est lui qui a un mauvais examen, c'est lui qui paraît mal, c'est lui qui... Donc, puis pour des personnalités plus narcissiques, ben ça devient difficilement tolérable. Donc il y a des une composante parentale à ça qui se développe. Puis c'est sûr qu'il y a des comportements que les parents peuvent apprendre à mieux contrôler pour préserver leurs enfants de ça.
J'avais entendu un psychologue parler sur un podcast américain où il parlait justement de narcissisme, puis il expliquait que si un enfant vivait de la compassion, de la passion et de la responsabilité, il était moins enclin à être narcissique. Mais si je ne me trompe pas, lui, il disait que c'était des fois plus acquis ou héréditaire. C'est pas héréditaire, le narcissisme, c'est ça.
C'est pas héréditaire. Ça va se développer dans l'environnement familial. Okay. Mais on n'est pas dans l'hérédité du tout.
Okay, okay.
On est vraiment dans une question d'environnement familial, comment les parents nous traitent, comment les parents vont positionner l'enfant par rapport au reste du monde. Tu sais, il y a des éléments qui sont assez clairs dans la personnalité narcissique. Tu sais, prenons le respect des règles.
Ouais.
Donc, une personnalité narcissique va avoir beaucoup de difficultés à respecter les règles. Quand on en parle avec lui, avec elle, il nous dit toujours, oui, mais moi, les règles, je suis capable de les réinterpréter. Hein. Les règles, elles s'appliquent aux autres, mais pas nécessairement à moi. Moi, je suis capable de... Puis, pour les enfants, ça va être la même chose. Donc, il y a des parents qui ont positionné les enfants à certains moments en disant, ben non, pour toi, ça, c'est pas la règle, mais pour tes amis, ça s'applique à ce moment-là. Donc, c'est des apprentissages qui se font. Donc, de croire que les règles s'appliquent aux autres, mais ne s'appliquent pas à nous, c'est parce que ces enfants-là ont vu leurs parents, ont été en contact avec ces situations-là. Il n'y a pas d'hérédité dans ça. On est vraiment dans l'environnement familial puis dans l'attitude des parents.
C'est incroyable. C'est fascinant. Et ça se change donc? Ça se modifie?
Oui.
Il y a de l'espoir, dans le fond, c'est ce qu'on dit.
Oui, absolument. Il y a de l'espoir, ça se modifie. Puis c'est pas facile, parce que par définition, souvent, quand on parle de personnalité narcissique, bien, ce qui va se passer, c'est ça va être qu'on tombe follement amoureux de quelqu'un qui nous dit « Hey, ça marche pas
».
Donc, on est contraint souvent par l'externe, par l'environnement, soit une relation amoureuse qui fonctionne pas, un employeur, des collègues, des amis qui disent non, tu peux pas agir comme ça.
C'est ça.
Ça fonctionne pas. Donc, ça va être l'externe qui va faire que la personne se ramasse dans notre bureau en se disant, bon, ben on me dit qu'il faut gêner ici.
Ça leur tente pas nécessairement.
Ça leur tente pas du tout.
C'est très challengeant, j'imagine. Ouais.
Oui, c'est très challengeant pour eux, absolument.
Mais s'ils sont rendus dans ton bureau, en quelque part, il y a déjà un pas d'entamé.
Absolument. Absolument.
Extraordinaire.
Absolument. On admet déjà qu'il y a une problématique. Puis ensuite, ça va être le travail du psychologue d'y aller. Tu sais, on peut pas... on y va doucement.
Ben oui, ça change pas du jour au lendemain. Doucement. Est-ce que donc, admettons que quelqu'un écoute puis réalise, « Ah, mon Dieu, il y a quelqu'un dans mon environnement de travail ou autour de moi, je constate que c'est une personnalité narcissique. » Comment on gère ça? Quand c'est quelqu'un qui n'est pas nous, mettons.
Oui.
Est-ce qu'on encourage les gens à le communiquer à cette personne-là de manière douce, mais somme toute?
C'est toujours assez... faut avoir beaucoup de doigté, faut être dans une bonne position. On peut toujours faire allusion de façon indirecte. mais c'est pas comme quelqu'un qui, tu sais, qui souffre d'un trouble panique ou d'un trouble d'anxiété généralisée. Par exemple, quelqu'un qui s'inquiète beaucoup par rapport à plusieurs éléments. Quelqu'un, en ce moment, on voit beaucoup des gens qui souffrent d'anxiété de type hypochondrie.
Hein,
donc, des
de
inquiétudes trop importantes par rapport à la santé à cause exactement là, de la pandémie en ce moment, bien, c'est sûr que ces gens-là, là, oui, là, des amis peuvent lui dire, regarde, je pense que t'es vraiment trop inquiète par rapport à ça. Je regarde tes différents comportements. Je pense que t'as besoin d'aide. C'est pas normal de passer des soirées à être trop anxieuse par rapport à ça. C'est pas normal de pleurer parce qu'on est trop anxieux par rapport à ça, par exemple. Là, oui, là je pense que ça vaut la peine de faire des reflets à ces gens-là puis d'essayer de les amener à consulter. Personnalité narcissique, c'est plus difficile. C'est souvent les conjoints, les conjointes qui vont se ramasser dans cette situation-là en disant, regarde, là, consulte, là, parce que ça ne marche pas, ou dans des organisations. Donc, certaines équipes de travail ou comme on a vu ces dernières années, où les gens vont dire, ben non, là, ça ne marche plus, on ne peut plus travailler avec quelqu'un comme ça qui n'a pas d'empathie, puis ouais. Qui est seulement orienté sur des résultats, à beau être très, très bon ou très bonne, ça ne change pas le point, le climat de travail est insupportable, ça ne fonctionne pas. Puis à ce moment-là, c'est à l'employeur de demander à des gens comme moi, là, des psychologues, psychologues du travail dans ce cas-ci, de leur donner un coup de main sur la gestion de ces cas-là, puis éventuellement de les référer dans nos cabinets.
Et ce genre de comportement-là, j'imagine qu'au courant de ta carrière, tu as vu des gens changer réellement.
Oui,
est-ce qu'un narcissique peut ne plus du tout l'être?
C'est pas dichotomique. Hein? C'est pas noir ou blanc, mais je dirais que quelqu'un qui a une personnalité narcissique et qui, pour qui c'est une révélation. Là. Il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent voir les choses autrement. Ils ne se rendent pas compte qu'ils perçoivent tout en fonction d'une certaine compétition,
ouais.
En fonction de... qu'ils trouvent insupportable l'idée d'être... que quelqu'un soit plus dominant que lui à quelque part. Qu'ils trouvent insupportable l'idée de suivre des règles parce que ça implique qu'il faut qu'il soit toujours dominant, par exemple. Quand il prend conscience de tout ça... Il y en a plusieurs qui vont se dire, ben hey, c'est compliqué, puis ça m'amène pas mal d'émotions négatives, cette affaire-là. Donc, ils sont prêts à changer ensuite. Là.
Donc, finalement, il y a des gens aussi, quand on les fait réaliser ou quand ils finissent par mettre un miroir, réalisent qu'ils ont peut-être un peu plus d'empathie qu'ils le pensaient, dans
oui,
le fond.
Oui, ça se développe.
C'est ça.
Ça va se développer, on va avoir des pratiques d'empathie, on va... Oui, absolument, on va développer l'empathie, mais souvent, on le constate. Puis... chacun a ses difficultés. Pour certaines personnes, mais il va souvent avoir un lien entre ça. Par exemple, je pense à certains dirigeants d'entreprise, entre autres, ils vont avoir un lien entre ces différentes dimensions-là de leur personnalité et puis leur efficacité. Alors que dans les faits, il n'y en a pas du tout.
Non, c'est ça.
Au contraire, là, souvent, des dirigeants d'entreprise qui sont narcissiques ou qui sont autoritaires, style de, souvent, ça va venir ensemble, mais un leadership autoritaire, ça fait quoi? Ça fait, par exemple, que tu n'as pas... l'information ne se rend jamais à toi.
C'est ça.
Parce que les gens ont peur de te donner l'information parce qu'ils ont peur de ta réaction. Donc, tu n'es pas au courant de ce qui se passe vraiment dans ton organisation. Donc, il y a plein de constats comme ça qu'on explore avec le client. Puis, ultimement, pour qu'il arrive à constater que c'est beaucoup plus payant, intéressant, puis ça améliore la qualité de vie, de changer ces aspects-là de sa personnalité.
Oui, c'est ça, parce que je pense, bien, comme on disait tantôt, il y a eu une manière de fonctionner dans le passé, dans les années 30, 40, 50, 60, ouais. 70. Même moi, je pense à mon père qui a travaillé dans la construction avec sa famille à lui. Bien, c'était une autre époque, c'était d'autres manières de travailler. Ouais. Fait naturellement, quand moi et lui, on travaille ensemble, bien, mon père, lui, quand il jouait au hockey, si son coach disait... t'es à chier, puis il disait, hey, moi, m'a montré que je suis bon.
Ouais.
Moi, quand mon père me coachait, si, il m'a jamais dit ça, là, mais si, moi, c'est complètement l'inverse. Si un coach me disait, t'es à chier, j'aime bien, parfait, m'a resté assis sur le banc, puis envoie quelqu'un d'autre.
Ah, ouais.
Mais on a vraiment grandi dans des environnements complètement différents.
Ouais.
C'est vraiment fascinant. Je sais qu'il y a possiblement des parents qui nous écoutent et qui peuvent être possiblement inquiets de savoir, oh mon Dieu, mon enfant va consulter. Est-ce que le psychothérapeute va le mettre contre moi?
OK.
Sans que ce soit exactement ça, mais je sais que moi, la première fois que je suis allé consulter,
ouais.
Mes parents étaient inquiets parce que c'était quelque chose qu'on parlait ouais. pas, alors que... puis qu'est-ce que tu répondrais à un parent qui pourrait penser, « Ah, mon Dieu, mais là, il va dire des choses contre moi où j'ai pas fait la bonne affaire. » T'sais, alors que le parent fait juste de son mieux. T'sais.
Oui. Puis c'est toujours d'entrée de jeu, dès que je parle du lien entre soit l'anxiété, la colère et puis le développement des enfants, ce que je dis toujours, ce qui est fondamental, c'est que tous les parents font du mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants. Mais certains parents sont eux-mêmes anxieux. Certains parents eux-mêmes vont être aux prises avec des problèmes, avec des troubles de l'humeur, avec des problèmes de dépression, avec des problèmes de gestion de la colère, avec des problèmes de personnalité. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis ça, c'est fondamental. Puis je pense que c'est ce qu'on dit à tous les clients. Là. Moi, je ne travaille pas avec les enfants en tant que tel, mais mes collègues le disent aussi puis le font aussi. Puis souvent, également, quand on travaille avec des enfants, on va le faire dans l'environnement familial. Hein. On va échanger avec les parents. On va leur demander de mettre en place certaines pratiques. Ça devient un travail d'environnement, parental. Puis c'est sûr que comme parent, on a tous nos forces, puis on a tous nos faiblesses, hein, y compris les psychologues. Là, moi-même, j'ai 3 enfants, bien, je connais mes forces, mais je connais mes faiblesses aussi.
Hein. Ouais.
Donc, on n'est pas là pour blâmer, on est là vraiment pour essayer d'aider les gens, puis d'aider les enfants à améliorer, à se débarrasser de certaines problématiques.
Exact, complètement. Puis
mais tu as raison que c'est super important, la culpabilisation des parents à travers ça. Moi, ça fait des années que j'écris pour Naître et grandir. Oui. Je fais des blogs.
Oui, j'ai lu dernièrement.
Et puis, justement, l'angle, c'est toujours celui-là. On dit souvent, on va changer un comportement, faire attention à ça, donner un truc. Mais ça veut, faut pas le prendre sur l'angle que ce que je faisais était pas correct. C'est pas ça. Non. L'idée, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour améliorer une situation? On fait tous des choses qui étaient pas correctes. Puis dans la vie, on s'améliore constamment. On vit des échecs. Mais l'idée, c'est de dire que quand ça va pas bien, je vais aller me chercher une rétroaction, peu importe de qui elle vient, puis ensuite, je vais améliorer mon comportement, puis la semaine prochaine, ça sera à moi de donner cette rétroaction-là à quelqu'un d'autre, puis ça sera à une autre personne d'améliorer son comportement.
Ouais.
Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Faut pas croire, malgré le fait que dans notre société de performance, ça ressort beaucoup, qu'existe un parent parfait ou une maman parfaite ou un père parfait. Ça n'existe pas, là. Ça n'existe pas, là. On va tous s'améliorer constamment, qu'on soit parent, qu'on soit psychologue, qu'on soit animateur, on s'améliore.
C'est
ça, la vie. Puis être humain, c'est ça. C'est d'échouer de temps en temps, puis de s'améliorer ensuite. Puis on remet l'épaule à la roue, puis on recommence.
C'est... tantôt, on parlait aussi de... Des gens qui vont aller consulter, même s'ils vont bien ou qui n'ont pas... certains vont aller pour un problème précis, d'autres plus large. Est-ce que tu encourages tout le monde à aller en psychothérapie, ne serait-ce qu'une fois ou deux par année ou de temps en temps, juste...
Ouais.
Parce que je sais que j'ai parlé avec Marianne Bélanger, une neuropsy qui est venue ici sur le podcast, puis je disais que... Moi, il y a un psychologue qui m'a déjà dit « Ah, ben tu sais, là, c'est vraiment à ton rythme. T'sais, je sens pas de crise ou quoi que ce soit. Donc, je suis là s'il y a quoi que ce soit, mais tu sens pas d'obligation. » Puis elle se réjouissait de cette réaction-là, de ce psychologue-là. Mais en même temps, moi, je suis là, bon, j'en parle sur mon podcast. Fait que, donc, naturellement, il y a des gens qui vont me parler. Il y a des gens qui m'ont écrit pour dire « Ah, mon Dieu, grâce à toi ou grâce à Marianne, pas à moi, mais grâce à tes invités, je suis allé rencontrer quelqu'un qui serait un peu freiné ou pas sûr, ou vous dire « Ah, ben je pense que j'ai pas de problème, mais j'ai jamais consulté, j'ai tel âge. C'est quoi ta perception? »
Moi, j'aurais tendance à dire que on consulte quand on ressent une certaine détresse, quand on ressent un besoin de soutien, quand les choses vont moins bien. À ce moment-là, c'est toujours une bonne idée à ce moment-là de consulter. Il y a comme 2 volets à ta question.
Ouais.
Il y a un volet plus personnel qui est de dire... Puis j'ai tendance à dire que oui, peut-être plus consulter quand on a l'impression que ce serait bon que non. Donc, il y a une certaine tendance-là. Mais ensuite, il y a le volet politique, qui est l'accessibilité aux soins en santé mentale.
Ouais,
le fait
ça.
Que les psychologues, on est tous débordés de chez débordés, particulièrement depuis un an.
Ouais.
On a de la difficulté à fournir les,
les demandes.
Excuse-moi, on a de la difficulté à répondre aux demandes. Le système de santé public aussi, les psychologues qui sont dans le public ont également beaucoup, beaucoup de difficultés de répondre aux demandes. Même chose pour les psychologues, les neuropsychologues, Dr Bélanger, ils ont la même problématique. Donc, il y a toujours ce dilemme-là de dire oui, on devrait être capable de consulter dès qu'on en a besoin, dès qu'on ressent qu'on en a besoin. Mais d'un autre côté, la réalité, c'est que
ça prend quelques semaines.
Ça prend quelques semaines, quelques mois. C'est long dans le public, parfois des années. Donc, ça, c'est extrêmement problématique. Et puis, on est dans le privé aussi. Donc, il y a des coûts d'associés à ça qui sont chers aussi. C'est pas tout le monde qui peut se payer les services d'un psychologue au privé, malheureusement.
Ouais.
On voudrait. Ça fait des années qu'entre autres, à l'ordre des psychologues, qu'on pousse pour avoir une accessibilité, y compris avec les psychologues en privé. Donc, qu'il y ait une espèce de système de type un peu RAMQ, ou comme l'assurance médicaments, où l'État rembourserait une partie des frais occasionnés quand on va voir le psychologue. Ce serait 60%, 70%, je ne sais pas combien. Mais il y a un certain pourcentage qui serait payé par l'État. Ce qui fait que beaucoup plus de gens dans le besoin pourraient avoir accès.
Techniquement, il faudrait, parce qu'en ce moment, si c'est pas fait, mais que c'est fait pour si je me casse le bras ou je sais pas quoi, dans le fond, c'est un peu... C'est pas ça qu'ils disent concrètement, mais c'est un peu comme dire les problèmes de santé mentale, c'est pas assez concret. C'est ça qu'ils envoient comme message?
On est comme basé sur un vieux modèle des années 60-70 où, à l'époque, la psychothérapie n'était pas aussi efficace. Les modèles de psychothérapie se sont beaucoup développés. Il y a beaucoup de pays dans lesquels se sont développés justement des structures où on sait que l'intervention de psychothérapie sur, entre autres, les troubles anxieux, sur les troubles de l'humeur, a exactement le même effet bénéfique que la médication et souvent supérieur à la médication.
Wow.
Mais malheureusement, on a structuré le système qui tourne beaucoup autour de l'intervention du médecin en tant que tel, puis un système qui va aller plus vers la prescription de médication. Puis c'est sûr qu'on doit comprendre aussi le médecin qui est dans son cabinet, qui reçoit quelqu'un où il a beau constater qu'il y a un trouble anxieux, la personne, mais lui-même, pour référer à un psychologue, il peut pas référer. Donc, il est pris avec cette situation-là. Fait qu'il va vers la médication à ce moment-là, qui peut être aussi une bonne modalité thérapeutique. On ne dit pas que la médication, c'est pas bon.
Non.
Certaines personnes, c'est bon. Puis, il y a des moments où on a besoin absolument de médication. Il n'y a pas de photo là-dessus. C'est certain.
Ouais.
Donc, mais ça n'empêche pas le point que cette problématique d'accessibilité-là fait que ces médecins-là ne peuvent pas référer. Puis s'ils peuvent référer, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, puis c'est que les cas extrêmement lourds.
Mm-hmm.
Mais le travailleur qui a un trouble panique puis qui finit par se ramasser en arrêt de travail parce qu'il ne peut pas retourner, il peut pas aller au travail, ou ça a un impact sur sa vie professionnelle, lui, souvent, va devoir payer l'humain de sa poche. Puis c'est pas tout le monde qui va être capable de payer ça, puis c'est pas tout le monde qui va avoir accès non plus.
Est-ce que, donc, ça passe aussi par l'éducation, un peu comme on parlait tantôt, de possiblement aller un peu plus à la source, de parler, si on parle aux plus jeunes, de tout ça, des émotions, est-ce que ça aiderait peut-être aussi ça à dégorger un peu, à ce que l'humain individuellement soit plus conscient de comment il sent, de ce qu'il est, et donc peut réagir plus rapidement?
C'est probablement une partie de la réponse. Il y a des études, des programmes, entre autres aux États-Unis, qui ont été étudiés, des programmes en 4e, 5e, 6e année, où on parlait beaucoup de gestion d'émotions, on était beaucoup plus sur qu'est-ce que c'est qu'une émotion, c'est quoi les différentes pensées, c'est quoi les comportements que je peux avoir à certains moments. Donc, beaucoup d'éducation qui était faite par rapport à ces enfants-là. Puis ces apprentissages-là de comment je gère ma vie émotionnelle, il y a des éléments de base que nos enfants, puis nous-mêmes, qu'on a pas appris. Là, la base qui est que quand j'ai une pensée, une perception, là, c'est pas parce que je pense quelque chose que c'est la réalité.
C'est ça.
On est dans une grosse base.
Oui.
Mais pourtant, les gens encore aujourd'hui disent « Oui, mais je le pense, ça doit être vrai. » Non.
Non,
c'est ton cerveau qui a pris un certain nombre de règles, qui a été chercher une partie de l'information. Tu n'as peut-être pas toute l'information, le fait de façon automatique. Donc, il faut pour justement avoir ce recul-là puis réussir à se questionner par rapport à ces pensées-là puis ces façons de voir les choses. C'est pas parce que je pense quelque chose que c'est vrai. Donc, tu sais, cette base-là, nos enfants ont même pas ça.
Ouais.
Donc, anciennement, il y avait un cours, hein, à une certaine époque, qui s'appelait Formation personnelle et sociale, il y a longtemps,
ouais,
qui devait avoir quelque chose un petit peu de cette nature-là. On l'a pas. Aux États-Unis, on sait que c'est efficace quand on a un programme comme celui-là. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'introduit, qui serait réintroduit au primaire? Peut-être éventuellement, mais bon, il y a bien d'autres choses aussi qui peuvent être intéressantes. On est toujours pris avec « oui, mais il y a ça aussi, il y a
des aspects
de société, de vote, de français. De... » Mais c'est sûr que la santé mentale, un petit cours de santé mentale,
mais ça pourrait être... Ça serait super important.
Ça fait partie de la réponse, je crois, de la réponse préventive. Puis ensuite, c'est pas parce qu'on sait, bien sûr, qu'on est à l'abri d'eux.
Ça,
donc,
il
reste quand même qu'ils devraient avoir un accès plus intéressant ou à tout le moins une structure autour de cette accessibilité.
Oui, absolument. Est-ce que l'intelligence... T'sais, mettons qu'on parle d'intelligence, t'sais, que ce soit l'intelligence académique, whatever, ça se travaille. Tu peux étudier plus. Puis
ouais,
évidemment qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, mais il y a moyen de travailler là-dessus. Est-ce que c'est la même chose pour l'intelligence émotionnelle?
Oui, même plus que l'intelligence.
Ah oui, hein?
Oui, oui. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui va se bonifier avec le travail. Donc, plus on prend conscience des différents mécanismes émotionnels, plus on travaille, par exemple, l'empathie, travaille certaines émotions, on fait certains exercices, on peut devenir très, très efficace au niveau de l'intelligence émotionnelle de façon même beaucoup plus importante que l'intelligence en tant que telle. L'intelligence en tant que telle, cognitive, il y a un niveau relativement fixe où, à un moment donné, le cerveau peut faire un certain nombre d'opérations, puis on a beau le pousser au bout, ce fameux chiffre-là qu'on peut avoir, nous a peut-être donné, ça va tourner pas mal autour de ça. On peut faire beaucoup de choses avec ça.
Ouais.
Mais on pourra pas, si on a un quotient intellectuel de 115, ben on pourra pas se rendre à 140.
C'est ça.
Éventuellement.
C'est pas alors qu'on peut pas calculer ça pour l'intelligence émotionnelle.
Non, exactement. Vraiment... On peut calculer à quel niveau je suis en ce moment sur mon intelligence émotionnelle, mais si je travaille fort là-dessus, ben, dans un an, je peux devenir bien meilleur, puis dans deux ans, encore bien meilleur.
Ouais,
je peux m'améliorer constamment, oui.
Les émotions, là, je sais même pas si ma question a rapport, là, je sais même pas si ça se peut, mais comme quand tu étudiais la psychothérapie, est-ce que vous étudiez beaucoup le cerveau? Comment le cerveau fonctionne? Les émotions, c'est-tu dans le cerveau? C'est dans le corps?
Oui. Oui, oui. Les émotions viennent de notre cerveau, viennent d'une partie de notre partie spécifique du cerveau en tant que tel. Et puis, mais vont beaucoup être déclenchées en fonction de ma perception de l'environnement. Donc, l'émotion, ça sert à quoi? L'émotion, on a développé ça, les êtres humains, pour envoyer des signaux pour s'adapter le plus possible à notre environnement. Fait que si tu prends chacune des émotions, elle va avoir une fonction adaptative dans l'environnement. Si tu parles de, par exemple, l'amitié, ben, l'amitié, ça permet quoi? Ça permet, quand il y a 20 000 ans, quand on était tous des néandertaliens des hommes de Cro-Magnon, voilà. Quand on était tous des hommes de Cro-Magnon, l'amitié, ça permettait quoi? Ça permettait d'être 10-12 ensemble, puis de se protéger
les
autres, donc la protection du nombre. L'amour, ça permet quoi? Ben, ça permet de protéger la progéniture. Ensuite, fait que chacune de ces émotions-là a une fonction adaptative avec l'environnement en tant que tel. Donc, si je regarde l'anxiété, qui est le grand classique, donc la peur, l'anxiété par rapport au futur, mais la peur en tant que tel, comme je le disais tout à l'heure, ça sert à quoi cette émotion-là? Ça me sert à mettre mon corps dans un état pour pouvoir me protéger de l'environnement. Donc, quand j'arrive face à une grosse bête ou face à quelqu'un d'un autre clan qui a peut-être une arme ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, ça me met dans un état, ça envoie un signal à mon cerveau, je me mets dans un état optimal pour faire face à cette situation-là. Même chose avec la colère. La colère, ça sert à quoi? Ça sert à essayer de reprendre le contrôle de façon agressive sur une situation.
La colère, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un tabou autour de cette émotion-là. On dirait que c'est pas tout le temps bien perçu.
Oui.
Des fois, chez l'homme, ça va être perçu comme de la force. Chez la femme, perçu comme de la folie.
Oui.
Moi, j'aime pas ressentir de la colère, mais évidemment, j'essaie de trouver des trucs pour l'évacuer de mon corps. Oui. Fait que, tu sais, moi, je sais que l'activité physique au quotidien m'aide à être beaucoup plus calme. Oui. Et donc aussi, quand je perçois l'information de quelque chose qui pourrait me mettre en colère...
Oui.
On dirait que je suis plus relax aussi, qui fait ouais. que on dirait que ma réaction va être différente. Là, je dis ça, j'ai l'air bien ben smart, mais ça m'arrive de péter des coches aussi. Là.
ça arrive à tout le monde.
Oui, c'est ça. Arrive à tout le monde. La colère, comment on gère ça? C'est-tu bon? C'est-tu mauvais? J'imagine que c'est un peu bon et ça peut être mauvais.
Ben, ça, oui. Comme tout, là, c'est pas. Ça. Mais quand il y en a trop. C'est sûr que ça devient problématique. Ça a un impact, sur le cœur, ça a un impact sur notre système circulatoire. Donc, ça a des impacts à plus long terme. Donc, quelqu'un qui est constamment en colère, c'est pas positif. Et puis, ça peut devenir problématique. Mais si on revient à la colère en tant que telle, c'est sûr qu'il fut une époque où on disait que bien, la colère, il faut essayer de l'évacuer, de la vivre. Je me souviens d'une époque où on disait que la meilleure psychothérapie pour la colère, c'était d'avoir un punching bag dans le sous-sol.
J'ai déjà entendu ça.
D'aller frapper. Ouais. Alors que non, pas
non.
du tout.
Non. Ah non, hein?
Non, non, c'est bon. C'est pas très, très bon. Ce que tu me décrivais, par contre, de dire, ben moi, j'ai une discipline qui fait que je vais faire du sport. Puis, je suis plus calme de façon générale, ouais. plus zen dans la vie, ce qui fait que c'est les situations où je pourrais vivre la colère. Bien, à ce moment-là, ma colère reste quand même relativement basse.
Ouais.
Ça, c'est une bonne stratégie.
OK.
Donc, l'extériorisation de la colère n'est pas toujours une bonne stratégie. Donc, s'extérioriser, donner des coups de poing dans les murs, des coups de poing sur un punching bag, quoi que ce soit, c'est jamais la meilleure des façons
parce
de gérer la colère.
Tu la nourris ou parce qu'elle est déjà là?
Parce que tu la nourris dans cette situation.
OK, c'est ça.
C'est ce qui va se passer. La meilleure façon pour gérer la colère, c'est vraiment de se poser des questions sur qu'est-ce qui fait que je suis en colère.
Voilà.
Donc, ma pensée, quelle est ma pensée? Puis, est-ce que cette pensée-là, un peu comme on le disait tout à l'heure, est-ce que cette pensée-là représente bien la réalité? Il a voulu me dire ça parce que... Attends, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire? T'sais, le serveur, il rit de moi. Est-ce que le serveur rit vraiment de toi? Arrête-toi à cette pensée-là, puis essaie d'aller chercher des informations.
Ouais.
Est-ce que ça se peut qu'il soit juste excédé de sa journée? Est-ce que ça se peut qu'il y ait d'autres alternatives ouais. qui ne te visent pas personnellement?
Ça, je sais aussi que des fois, je parlais de ça avec mes amis et... qui fait que j'essaye justement de me poser ce genre de questions-là. Faire. Si cette personne m'envoie ça, qui fait que instinctivement, mon réflexe serait de la défense ou de la ouais. colère. Et des fois, je parle de ça avec mes amis, puis certaines personnes vont pouvoir dire « Ah, ben là, elle a été méchante avec moi ou du moins, elle a eu un comportement qui se voulait désagréable ouais. envers moi. Pourquoi c'est à moi d'être plus mature que l'autre et donc de faire le chemin?
Ouais.
Bon, cette personne-là a peut-être eu un mauvais client, donc là, elle n'a pas été fine avec moi, mais je dois pas y renvoyer ça. Mais moi, je fais parce que ma réponse à ça, c'est que c'est parce que, mettons, si je plie moi aussi, là, ça en suit une ligne de négativité qui s'en finit plus.
Ouais.
Alors que, puis l'idée, c'est de faire, hey, c'est un être humain, c'est pas grave. Puis, mais je te dis ça encore une fois, il m'arrive très souvent de.
Bien sûr.
Mais c'est un réflexe, c'est tellement difficile d'intellectualiser ça, puis ouais. de faire ce chemin-là. Ouais.
Mais si on a déjà une croyance de base qui va guider notre comportement, comme ce que tu disais tout à l'heure, de dire, ben moi, je m'engage pas dans des combats qui servent à rien. J'essaie de me poser des questions, j'essaie de voir les choses d'une façon différente. Bien, déjà, c'est réglé pour 80-85% des situations.
Mm-hmm.
On peut pas... Ça sera pas toujours réglé. Il y a toujours des situations qui vont peut-être venir nous chercher un petit peu plus. Puis il y a des conditions aussi. Tu sais, quand on a eu une plus grosse journée, quand ça a été moins bien au travail, peut-être que ce qu'on aurait aimé que ça aille, la façon qu'on aurait aimé que ça aille dans cette journée-là, mm-hmm. bien, le soir... Des fois, hein, on sait l'irritabilité,
ouais.
ça va souvent être un symptôme de stress au travail. Donc, à ce moment-là, ben, ça se peut que ça glisse plus rapidement. Puis là, quand ça se produit ça, ben, il faut avoir des mécanismes pour contrôler ces moments-là. Tu sais, quand on voit là, que la colère monte trop, que ce soit en couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les amis, bien, assez rapidement, là, on essaie de s'isoler dans ce temps-là.
C'est ça.
Donc, on sort de la situation, on s'isole, puis pour avoir cette maturité émotionnelle-là, de voir quand est-ce que mon niveau de colère devient trop élevé puis que je dois me retirer de la situation. Puis quand on est en couple, souvent, il faut qu'il y ait une discussion entre nous sur le « Attends, si je me désengage, là, laisse-moi aller.
Ouais.
Laisse-moi aller prendre ma marche. Prends les pas personnels. C'est moi qui dois gérer mes émotions. Mais essaie pas de me garder. Là.
Ouais.
Donc, laisse-moi marcher. C'est ma stratégie pour gérer ma colère. T'sais, souvent, c'est le genre de choses qu'il faut parler en couple. Sinon,
Puis la maturité émotionnelle, ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille.
Oui, oui, absolument. C'est maturité émotionnelle et puis intelligence émotionnelle, on est pas mal dans les
mêmes.
On est pas mal dans les mêmes éléments. Fait que par rapport à la colère, c'est toujours un élément qui est très, très important. Puis moi, ce que j'aime dire par rapport à la gestion de la colère, c'est que souvent, ce que je dis à mes clients quand ils viennent voir et qu'on parle de colère, c'est de dire que toi, t'as beau être en colère contre cette personne-là en ce moment, puis être verte, tu sais, quand ça arrive au travail, par exemple. Mais là, cette personne-là, ce soir, là, même si toi, t'es fâché toute la soirée chez vous, là, lui, il va aller chez eux, il va dire bonjour à ses enfants, il va regarder la TV. Il s'en fout que tu sois en colère. Là. C'est juste toi qui vas souffrir de cette colère-là.
Ouais.
Puis c'est ça le point important avec la colère, c'est que souvent, on oublie que ça...
On rumine.
On rumine, c'est difficile pour nous. C'est une émotion qui n'est pas agréable. C'est que à nous qu'on fait du mal quand on est en colère comme ça, puis quand on rumine cette colère-là. L'autre personne, elle est chez eux tranquille, ben, elle n'a jamais entendu parler.
Ben, puis même en situation de conversation, rarement la colère mène à une issue qui est le fun.
Ah.
On peut passer par la colère pour faire comprendre à l'autre qu'il y a un comportement qui ne nous a pas...
Oui. On peut nommer la colère.
C'est ça.
À ce moment-là, tu sais, dire ça me met en colère quand tu. Je trouve ça difficile, ça me fait mal quand tu fais X, Y, Z. Oui, bien sûr. Puis là, on fait appel à l'empathie de l'autre qui va ensuite ajuster, adapter son comportement, on l'espère. Mais quand on est en colère puis qu'on voit qu'on commence à avoir un peu trop de colère, on est mieux de se désengager. Même pour les discussions politiques, même pour...
Oui.
On est mieux de se désengager.
Oui, absolument. Ouais. Puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'on fuit la situation. Au contraire, c'est qu'on veut bien la gérer.
Oui, exactement.
Est-ce que dans les dernières années, même dans la dernière année, la dernière année, mettons, là, ça a été une année où j'ai l'impression qu'on était tous et toutes plus à fleur de peau.
Mm-hmm.
C'est normal.
Mm-hmm.
Est-ce que la colère... Mm-hmm. est une émotion qui est plus facile à vivre? C'est-à-dire, est-ce qu'on tombe plus facilement dans la colère dans une situation si conflictuelle? Oui.
Ouais. Bien, il y a l'ensemble. Il y a comment on se sent, est-ce qu'on est stressé, quelles sont nos dispositions quand on débute la conversation. Ça, c'est un premier élément important. Puis ensuite, la colère... C'est toujours important de la percevoir comme étant une tentative de reprise de contrôle. Quand je suis en colère, c'est que je veux reprendre le contrôle sur quelque chose. Je veux reprendre le contrôle sur la conversation, je veux reprendre le contrôle sur le comportement de mon enfant, je veux reprendre le contrôle sur la discussion, la relation avec ma femme. C'est la fonction de la colère. Donc, dans la dernière année, les éléments de contrôle pour la plupart des gens... Ben, le gouvernement nous demande de faire certaines choses, les entreprises nous demandent de faire certaines choses. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire qui sont habituellement nos recours. Hein? Tu parlais de sport tout à l'heure, ben,
les gyms sont
fermés. On est quelques-uns en ce moment qui ne peuvent pas faire grand-chose à part courir dans la rue. Donc, si c'est pas courir en ce moment, ben, il y a bien des gens qui ont plus cette soupape-là présente pour pouvoir mieux gérer ce fond-là de stress. Donc, c'est sûr que dans des circonstances comme celle-là, il y a plus de risques d'avoir de la colère, puis il y a plus de risques de se sentir dans une situation où j'ai envie de reprendre le contrôle. Mmh. J'ai envie de... Puis même, je dirais que socialement, avec tous les mouvements qu'on a vus, avec l'ampleur du QAnon au Québec, des conspirationnismes, et puis tout ça, le conspirationnisme, c'est un peu ça. Hein? Ça nous donne une raison, ça nous donne une explication. Que cette explication-là soit vraie ou non, c'est un autre débat.
Ouais,
mais psychologiquement, ça nous donne une explication. à ce qui se passe, à nos incertitudes en ce moment. Puis ça nous donne un certain pouvoir à les manifester, à les parler, à en discuter entre nous, faire des plans pour manifester. Ben, c'est des actions concrètes. Donc il y a ce côté-là aussi qui est en lien direct avec la colère, qui permet de calmer un peu plus les incertitudes. Mm. Donc, quand il y a beaucoup d'incertitudes, souvent,
la colère
il y a des chances que la colère ressorte.
C'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Le rôle des... Tantôt, on parlait du fait que le narcissisme a augmenté.
Ouais.
Dû possiblement aussi aux réseaux sociaux qui ont boomé, tout ça. Des fois, je sens que la colère aussi sur ces réseaux-là. Ta perception des réseaux sociaux ou la perception de... Ouais, ta perception des réseaux sociaux, pour toi, c'est quoi?
Il y a des aspects très positifs. Il y a des aspects très positifs. Tu sais, ça nous permet de, particulièrement en pandémie, ça nous permet de prendre des nouvelles, ça nous permet de... Tous les gens avec qui j'ai des relations relativement positives, ben, c'est intéressant. Mais c'est sûr qu'il y a un pan relativement négatif, plus sociétal, où, ben, avec toute la question de la gestion par algorithme et tout ça, ben, nécessairement, notre recherche d'informations devient assez limitée. Puis il y a une polarisation des gens à travers tout ça. Donc, cette polarisation-là, ça apparaît dans notre façon de voir les choses.
C'est
ça
fou.
Ça permet dans notre façon d'interpréter les choses. Puis ça apparaît aussi dans notre façon de vivre ce rapport-là qu'on a avec le politique, avec les autres, avec les gens. Donc, cette radicalisation qu'on voit sur des questions, là, on a des questions de société qu'on pouvait probablement discuter et puis se sortir de après une certaine discussion il y a quelques années. Maintenant, on dirait qu'on reste pris dans une polarisation. Puis même sur des... Parfois, on a des questions. C'est arrivé ces dernières semaines, des questions sur lesquelles on est d'accord, mais que finalement, les gens deviennent extrêmement polarisés sur une question sur laquelle, au fond, on est tous d'accord sur ces questions-là. Ça arrive à gauche, ça arrive à droite, ça arrive au centre, ça arrive un peu partout. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment développer un certain recul par rapport à notre façon d'aller chercher de l'information sur les réseaux sociaux, puis surtout à l'impact que ça a sur nos pensées, sur nos croyances, sur nos façons de faire, puis sur les émotions qu'on vit à travers ça.
Mm-hmm. Oui, c'est une grande réflexion que j'ai eue, moi, cette année. Évidemment, c'est un outil de travail qui est merveilleux.
Oui.
Pour moi, j'ai pu vendre des billets, j'ai fait une tournée entière là-dessus. Tu sais, c'est très positif, très concret. Mais aussi, encore une fois, je suis jeune, mais je ne suis pas tant que ça sur les réseaux sociaux, mettons.
Oui.
Mais je pense beaucoup aux adolescents là-dessus. Tu sais, t'es en secondaire 1, puis... Ça peut être, tu sais, si à l'école c'est difficile, puis après ça tu arrives à la maison, puis tu es sur tes réseaux sociaux, puis c'est difficile aussi là-dessus. On dirait que tu sors jamais de ce petit nuage-là. Alors que moi, en secondaire 1, si j'avais une mauvaise journée à l'école, j'arrivais à la maison, l'école, je n'étais plus à l'école en aucune manière. D'aucune manière, mm-hmm. j'étais avec ma famille, puis mes amis, puis je faisais autre chose, tu sais. C'est ça qui est stressant, des fois, je trouve.
Puis cette question-là est la même question au travail qu'à l'école. Donc, ce que tu dis est fondamental. Quand on était plus jeune, puis qu'on se faisait intimider à l'école, on sortait de l'école, puis c'était fini. Hein? On tombait sur notre rue avec nos amis, puis là, on se faisait pas intimider, puis on savait que le lendemain, il fallait retourner. Mais là, aujourd'hui, quand on se fait intimider sur les réseaux sociaux, comme tu le dis, ben c'est...
Non, ça finit plus.
Ça finit plus. Puis il n'y a plus d'endroits où on peut ne pas être intimidé. Donc ça, c'est une grosse différence. Puis c'est un peu la même chose qu'on vit toute notre vie avec ça, en ce sens où, pour le travail, la problématique, on parlait en début de rencontre là, d'hygiène de vie professionnelle, ben les réseaux sociaux, ça, c'en est un. Réseaux sociaux, courriels, donc mes liens avec le travail, je dois apprendre à bien gérer ça pour pas que ça devienne trop envahissant, pour pas avoir à recevoir, à gérer des courriels constamment.
Ouais.
Et puis avoir une certaine distance par rapport à ma vie professionnelle, être capable de détachement, d'avoir des activités qui permettent le détachement où je suis capable de ne pas avoir à penser au travail. Puis cette même problématique-là qui est à l'adolescence dans les écoles se poursuit toute la vie jusqu'au travail, de par ce qu'on appelle l'ubiquité, hein, le fait d'être capable d'être partout en même temps. Ouais. C'est ça, hein, l'école, elle est avec moi. Moi, je suis à la fois à l'école, je suis à la fois chez nous en train de regarder la télévision, puis à la fois dans ma famille avec mon appareil en tant que tel. Donc, pour s'assurer de bien gérer ça, puis de revenir peut-être à un entre-deux. Tu sais, il y a 30 ans où c'était vraiment clair qu'à 4 heures, l'école se terminait, puis ça finissait. Bien, aujourd'hui, même chose avec le travail. Tu sais, quand je sortais du bureau à 5 heures, c'était terminé. Bien, maintenant, c'est plus la réalité. Il faut trouver une façon de gérer ça où je vais être capable quand même de maintenir une bonne santé psychologique à travers ça.
Oui, absolument. Puis, mais ça, c'est un travail, c'est ça, c'est un travail, c'est une discipline à aller chercher, ouais. en quelque sorte.
C'est une discipline, un certain nombre de règles, un certain nombre de... tu sais, il y a moi de mon côté, comment est-ce que je le gère? Ensuite, il y a mes collègues de travail, par exemple, quand ils m'envoient un courriel à 8 heures le mardi soir, qu'est-ce que je fais avec? Ça, ouais. C'est encore de mon côté. Est-ce que je réponds ou est-ce que je le laisse poireter jusqu'au lendemain matin pour être sûr qu'ils comprennent? Puis encore là, on parlait de perception tout à l'heure. Peut-être que mon collègue qui m'envoie ça à 8 heures s'attend pas à une réponse. Lui, il envoie juste ça parce que c'est fait, puis il se dit, ben non, Dieu me répondra demain, pas de problème. Ouais. Mais toi, tu n'as pas cette information-là.
C'est ça.
Donc, fait qu'il y a un travail à faire de notre côté. Il y a un travail à faire aussi du côté des organisations pour spécifier justement les attentes dans cette situation-là.
Ouais.
C'est quoi l'attente de l'organisation quand je reçois un courriel à 8 heures le soir? Peut-être que c'est... Tu sais, de l'attente, c'est de dire, ben, tu réponds à tes courriels entre 8 heures et puis 17 heures.
Ouais.
Et puis ça, c'est l'attente qu'on a. Si les autres t'envoient des courriels, pas de problème, mais tu n'as pas à les lire puis tu n'as pas à y répondre.
Voilà.
C'est le type, ça dépend toujours des organisations.
C'est clair.
Ça dépend on fonctionne pas de la même chose, de la même façon quand on travaille en urgence que quand on travaille de 9 à 5.
Donc, c'est contextuel.
Mais il faut clarifier.
Ouais.
Il faut clarifier, puis il y a une partie qui doit venir de l'organisation, puis il y a une partie qui vient de nous en tant que tel, où on s'affirme, on met clairement nos limites, et puis on suit ensuite, puis on
c'est
suit.
Ça. De là, la discipline.
Ouais,
c'est de faire, ben, si moi je me dis ça, ben il faut après ça faire ce travail-là. Des fois, les premières semaines sont plus difficiles, parce que la journée où si tu étais habitué de répondre à tes courriels tout le temps, et que là, à partir de lundi prochain, tu fais « Hey, maintenant, à 18 heures maximum, je réponds au courriel, puis ça recommence pas avant 9 heures le lendemain. » Bien là, les premières semaines, des fois, les gens vont être surpris de ça.
Exactement.
Mais à un moment donné, c'est une limite qui est bonne à se mettre.
C'est bonne à se mettre. Souvent, on y va graduellement.
Ouais.
Hein, on commence par ne plus répondre à 8 heures le soir, 7 heures le soir, 6 heures, une semaine, deux semaines.
C'est fou qu'on soit rendu à se discipliner comme ça, de s'éloigner d'un appareil. Tu sais, aussi, moi, j'ai l'impression, cette année, quelque chose qui m'a marqué beaucoup, puis j'imagine que je suis pas le premier, là, j'invente pas ça, mais c'est notre manière de communiquer les uns avec les autres, comment c'est relativement défaillant, tu sais, que ce soit notre compréhension personnelle, nos attentes face aux autres, face à la police, au gouvernement, nos boss, j'ai l'impression que cette année, ça a été surligné. Le fait que, ah mon Dieu, on n'est pas si doux les uns avec les autres. On communique pas super bien les uns avec les autres. Je sais pas si tu partages cette opinion-là ou cette observation-là.
Oui. Au niveau de la communication, que les gens sont durs les uns avec les autres?
Ben, je trouve, cette année, j'ai trouvé on dirait que la pandémie a surligné ça, le fait de... C'est l'hostilité, je trouve, a pris de l'ampleur.
Ouais.
Évidemment, ça part de la peur, on en parlait tantôt, la colère, la reprise de contrôle, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui ont cette conscience-là qui fait que on va tout acheter des papiers de toilette, puis c'est le mien, puis va chier. Puis... Enfin, oh mon Dieu, puis on n'est pas en temps de guerre, là, tu sais.
On n'est pas en temps de guerre, puis on est probablement plus habitué à ça. On n'a pas vécu rien de cette nature-là, ni
c'est
depuis,
ça.
Depuis des générations. Là, je pense qu'on peut le dire. Donc l'attitude générale est différente. Il y a des moments où il y a eu beaucoup d'empathie, puis beaucoup de...
Le soutien.
Oui. Puis, tu sais, quand on regarde dans le premier confinement, là, ça s'est fait assez rapidement, ça s'est fait dans l'ordre. Il n'y a pas grand monde... Tout le monde respectait pas mal les règles. Donc, il y avait une certaine solidarité. été à travers tout ça, mais c'est installé, en effet, avec le temps, des émotions. Mais je pense que les gens sont fatigués,
ouais.
Les gens sont stressés, puis on a des problématiques de santé mentale, de façon générale, ont augmenté depuis 7-8 mois. Je me souviens encore de, je pense que c'était au mois de mai, on avait, il y a beaucoup de sondages, donc l'un vaut l'autre, là, mais je me souviens d'un sondage où on parlait de 75% des employés qui étaient à un niveau de stress difficilement tolérable parce que les gens étaient en train de s'adapter, parce que, puis moi, ce que j'ai vu en clinique là, depuis ce qu'on peut appeler le deuxième confinement, là, c'est que c'est encore pire. Là. Mm-hmm. Donc, il y a encore plus de détresse chez les gens, non seulement parce qu'il y a ce confinement-là, parce que les gens vont perdre, entre autres, les activités sportives, qui est un élément important, les restaurants, on a tous des amis qui sont dans des situations catastrophiques, mais en plus, on s'en va vers... Tu sais, le Québécois, habituellement, quand il s'en va vers l'hiver, il y a moins de jus dans sa batterie, comme on dit. Donc, c'est un point de plus. Donc, l'esprit général en ce moment est beaucoup moins positif puis beaucoup plus accrant que ce qu'on pouvait voir au mois de mars, avril, mai, où il y avait un côté peut-être un petit peu de nouveauté à tout ça. Alors que là, c'est autre chose.
Ouais. Est-ce que je sais pas pourquoi c'est cette question-là qui pop dans ma tête, mais parce qu'évidemment, bon, c'est une crise, c'est une pandémie. C'est tout le moment, ou un des moments les plus intenses de nos vies, là, tu sais, ou particuliers du moins. Ouais. La manière que la société fonctionne est guidée par le gouvernement. Est-ce que tu penses que le gouvernement devrait plus considérer ce que les psychologues ont à dire par rapport à ce pan de l'histoire qui est particulier ou...
Moi, j'ai sérieusement l'impression que le gouvernement est débordé.
Ouais, c'est
ils
ça.
Ils font vraiment ce qu'ils peuvent.
OK.
Oui, certainement que... Puis je suis assez certain que c'est une préoccupation pour eux, la santé mentale.
Ouais.
Mais ils en ont tellement sur les épaules, là. Une catastrophe de cette ampleur-là, interne, on n'a pas vu ça, on n'a même jamais vu ça. T'sais, on parle de guerre, là, mais la guerre, c'était pas ici. Là. Il y avait des adaptations à faire, il y avait des soldats envoyés.
La grand-mère de mon ami David avait dit, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et la COVID, ouais. Elle est encore vivante. Puis mon ami David, un moment donné, est allé la voir dans sa cour, puis il dit « Ah, grand-maman, t'sais, elle est comme « Viens-t'en », il dit « Non, je peux pas, faut que je reste loin », puis ça. Mais il dit « Hey, il a souligné ça, fait, hey, toi, t'as vécu, elle avait une vingtaine d'années quand elle a vécu la guerre, puis comme aujourd'hui, tu la COVID, c'est fou. Puis elle a répondu, ouais, mais pendant la guerre, il y avait encore de la balle. Il avait pas arrêté le baseball. Pour elle, la guerre, c'était moins pire.
C'est ça.
En effet, c'était pas ici.
C'est ça.
Ouais.
Donc, alors que là, ils ont tellement à gérer. Je pense qu'ils sont conscients de ces problématiques-là, des problématiques de santé mentale. Mais c'est arrivé du jour au lendemain, et au niveau provincial et au niveau fédéral. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont agi du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Certains outils assez imparfaits, mais au moins, ils l'ont fait rapidement.
Ouais.
Puis j'aimerais pas être à leur place, hein, franchement. Non.
Est-ce que la suite, je veux pas dire t'inquiète, mais justement, on parlait tantôt déjà de la charge que les psychologues ont sur les épaules. Ouais. À un moment donné, on a 24 heures d'une journée. Faut que vous preniez soin de vous aussi.
Ouais.
C'est primordial. Si on voit ce qui s'en vient avec ce qu'on est en train de vivre, est-ce que les dommages collatéraux de cette crise-là, c'est quelque chose... Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Ou j'imagine que oui, là, mais...
On est comme encore dedans.
Oui, c'est ça.
Ouais, on est encore dedans. La deuxième vague, en ce moment, ça cogne fort. Puis on le voit, tu sais, les psychologues qui pratiquent depuis plus longtemps, comme moi, puis beaucoup de collègues qui pratiquent depuis plus longtemps que moi, on a comme un, tu sais, on a un backlog, là, si tu veux. Là, tu sais, moi, je traite des clients depuis 15, 16, 17 ans. Donc, quand on a un backlog comme ça, ben souvent, tu vas avoir un client que tu as vu il y a 10 ans, il y a 11 ans, qui va revenir, qui va te rappeler, tu t'en as... deux par année.
Ouais.
Mais là, c'est pas ça, là, le backlog de 20 ans. Là, j'en ai 3 ou 4 là, par semaine là,
oh, mon Dieu.
Que j'ai pas vu depuis longtemps puis à qui j'ai dit, si jamais il y a quelque chose, gêne-toi pas, contacte-moi. Puis là, tout le monde est en train de recontacter. Fait que ceux qui sont plus sensibles, ceux qui ont eu des difficultés dans les dernières années puis qui allaient très, très bien il y a un an, recommencent. Et puis ça, on parle même pas de toutes les nouvelles demandes en tant que telles. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans le encore dans l'œil de l'ouragan, là, on est mm-hmm. dans l'œil de la tornade, là, on est en plein centre de la crise, puis je pense qu'on va voir ensuite comment est-ce qu'on peut s'adapter le mieux possible, puis s'adapter comme société pour contrer les effets ensuite.
Oui, c'est clair. Ouais. Ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'on vit tous... On va souvent parler du deuil dans la vie, puis on va souvent penser au deuil par rapport à un proche qu'on va perdre, une relation amoureuse. Mais là, on vit des deuils comme de notre vie, comme on l'a toujours connu. C'est des deuils qui, ça peut sembler bien niaiseux de faire « Ah, ben moi, j'avais l'habitude d'aller au gym là, puis ouais. après ça, de sortir, de manger à telle place avant d'aller au travail. Ouais. » C'est comme des micro-deuils, mais ouais. qui s'accumulent. T'sais. Puis le deuil, c'est intense à vivre ouais. là aussi. C'est oui, des oui, grosses brisures.
Oui, oui, puis un aspect... avec le deuil, il y a un aspect incertitude qui vient ensuite, de dire quelle sera ma vie ensuite jusqu'à ce que je reconstruise une autre vie. Mais la problématique en ce moment, c'est qu'on ne sait toujours pas. Donc, on ne sait pas. Là, tu parles de cycles comme ça. Ouais. Moi, mes bureaux sont dans le Vieux-Montréal. Donc, ça fait des années que je suis là. Donc, il y a beaucoup de restaurateurs avec qui j'échange, que je connais. Puis, j'espère ne pas en perdre, mm-hmm. mais je le sais qu'on va en perdre. Puis ça va changer justement ces habitudes-là. Ça va changer Montréal. Je me promenais... ce week-end, justement, dans le centre-ville. Puis la ville va changer du tout au tout. Le Montréal, dans 3 ou 4 ans, ne sera plus du tout le Montréal qu'on a connu. Donc, il va falloir s'adapter à cette nouvelle réalité-là, où il y aura probablement des aspects positifs. Hein. Il va y avoir plus de transports en commun, il va y avoir le ouais. REM, il va y avoir des éléments positifs. Mais ça va changer, mais de façon vraiment radicale. Puis on n'est pas au bout de ces changements-là. Donc, puisqu'on est encore dans la crise, je pense que c'est important de toujours garder en tête qu'il va continuer à avoir des deuils. Et puis on va s'adapter à ces... Il va falloir s'adapter à ces deuils.
Ouais. Ouais. Le deuil, c'est quand même quelque chose, moi, qui me... je trouve on connaît le mot, les gens vont parler des étapes du deuil, tu sais, c'est comme, ouais. ben, ça se veut bien. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça, c'est vraiment spécial. Tu sais, en ce moment, il y a des gens qui perdent des proches, ils peuvent pas être là, tu sais...
Ouais.
C'est super, c'est dur un deuil. Moi, j'ai une psychologue qui m'a déjà dit, tu sais, que justement, c'est que ce soit. C'est dans les trucs les plus intenses qu'un être humain peut traverser, tu sais, perdre un proche, tu sais, une rupture amoureuse. C'est des trucs vraiment difficiles à vivre humainement. Ouais. Là,
à l'échelle de la détresse, là, on a un certain nombre d'événements là, qui sont toujours les plus importants. Le numéro un, c'est le deuil, là, c'est sûr. C'est la perte d'un proche. Ça, c'est le premier événement le plus stressant qu'on peut vivre dans nos vies. Ouais.
Est-ce vrai les étapes du deuil?
Oui. Oui, donc on commence par le choc, ensuite le déni, donc on va nier, on va apprendre. Notre première réaction, ça veut dire, ben non, c'est pas vrai, ça doit être une autre personne. Ça doit être, quand on parle de décès, entre autres, ou ça arrivera pas, ou quoi que ce soit. Moi, je me souviens encore de... exemple personnel. Donc, à la pandémie, quand on nous a arrêtés là, le mardi, là, moi, j'étais certain que ça durait 2 semaines.
Ah, bon.
c'est un bon exemple de déni, le psychologue, qui pense que ça va durer 2 semaines. Donc, on est dans le déni, on ne regarde pas exactement ce qu'il y en a. Puis, tranquillement, ensuite, on accepte, l'acceptation va suivre. Puis, l'étape la plus importante, ensuite, c'est... Ben, il va y avoir la colère aussi, mais c'est surtout la reconstruction.
Ouais.
Où là... Lentement, je vais avoir à revivre des nouvelles expériences sans la personne ou dans un contexte différent, revivre des nouvelles expériences, puis reconstruire une nouvelle vie, des nouveaux souvenirs. Mm-hmm. Hein, quand on parle de perte, par exemple, d'un parent, perte d'un père, perte d'une mère, ben, t'sais, une fête des pères sans mon père, une fête des mères, la première, mm-hmm. à Noël, tous des événements qui sont différents, qui sont très chargés. Puis le premier va être très difficile. Ensuite, les années vont suivre, le deuxième, le troisième. Puis on va reconstruire une nouvelle vie, des nouveaux rituels, entre autres, au niveau des fêtes, par exemple, des nouveaux rituels qui n'impliqueront pas cette personne-là. Puis c'est comme ça que, lentement, le deuil va se faire. Cette nouvelle vie-là va, va s'impliquer, va se développer. Mais ça se passe pour des choses dramatiques, comme on dit, quelqu'un qui décède.
Ouais.
Mais on peut penser aussi des enfants qui quittent la maison. Hein, des ouais. parents doivent faire le deuil, par exemple, des fêtes avec les enfants ou des enfants tous les soirs. Donc, c'est des deuils, ça aussi, qu'on a dans la vie puis auxquels il faut s'adapter.
Ouais. On est vraiment des... autant l'être humain est fascinant, on est fragile et fort en même temps. Là, mm-hmm. J'ai l'impression, tu sais, ne serait-ce que quand tu te fais une blessure, de voir que, ah mon Dieu, ça... Tu sais, ma petite sœur est enceinte, c'est aussi niaiseux, mais de faire... Mm. On jasait l'autre fois, puis je suis comme, tu réalises-tu qu'en ce moment, on jase, mettons? Puis t'es en train, il y a un être humain en toi, t'es en train de bâtir ta fille, c'est fascinant. Ouais. T'es tellement forte, ça n'a aucun bon sens, tu sais. Fait que on est très fort et fragile à la fois, j'ai l'impression. Puis je trouve qu'en psychothérapie, c'est le mariage des deux.
Ouais.
Souvent, on arrive là à cause de notre fragilité, et c'est là qu'on découvre notre force,
ouais.
tu sais.
Ouais. Oui, puis je pense que la force et tu sais cette fragilité là au niveau de l'émotion, au niveau de il y a peut-être une perception au niveau de cette fragilité là, mais quand on regarde ce qu'on peut passer au travers, ce qu'on est capable de vivre, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est, tu sais les êtres humains sont, je pense que la force est très très présente. Il y a une fragilité selon nos propres critères.
Ouais.
Selon. Mais quand tu regardes, quand on regarde vraiment comment l'être humain se comporte, il y a une force quand même très, très importante, comme tu le dis. Je pense qu'il faut garder ça en tête. Puis cette force-là va nous permettre de passer à travers de beaucoup de ces situations-là, puis de s'adapter.
Oui, absolument.
C'est ça, la force. La force, c'est d'être capable de s'adapter. Non seulement de s'adapter nous-mêmes à un environnement, puis ultimement d'adapter notre environnement à nos différents besoins. Puis ça, on est capable de le faire à l'extrême, si on pense au changement climatique, si on pense aux éléments moins positifs de cette force-là. Par rapport à la pandémie en ce moment, c'est toujours très, très important de se ramener à ça, de se ramener à cette idée-là, de dire que penser à ce que je vais avoir envie, ce que je veux en ce moment, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça ne me donne rien. Là. Je fais la journée aujourd'hui. Je vois comment ça se passe. J'essaie d'aller me chercher du détachement, des plaisirs, de faire ce que je peux dans ma bulle avec des gens proches. Puis ça va être ça pour cette semaine. C'est quoi mon prochain plaisir? Y a-t-il quelque chose d'agréable que je peux aller chercher cette semaine? Puis ensuite, la semaine prochaine, ce sera une autre semaine. Puis il va y avoir une suite de semaines comme ça qui va nous amener à sortir éventuellement, parce qu'on va sortir de cette pandémie-là. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient... je suis peut-être encore dans le déni, non, mais je ne suis pas de ceux qui croient qu'on va avoir encore des masques puis de la distanciation sociale dans 2 ans puis dans 3 ans. Puis, moi, je suis de ceux qui croient que c'est une période extrêmement difficile. Avec les vaccins, avec les protocoles de traitement, on va y arriver, on va s'en sortir. On n'y est pas encore, mais on va s'en sortir éventuellement. Puis d'ici là, bien, on se concentre sur les jours les uns après les autres, puisqu'on peut aller chercher avec ce qu'on a en ce moment, puis éventuellement, on va s'en sortir.
Mm-hmm. Nicolas, merci tellement de m'avoir offert de ton temps ce matin.
Ça m'a fait plaisir, c'était bien agréable.
Oui, là, t'étais pas préparé finalement, ça a été correct?
Finalement, je pense que oui, ouais. Ça a été très bien.
Moi, j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé ça fascinant. J'aurais pu te parler pendant des heures, mais évidemment, on a chacun notre journée à vivre, et demain est un autre jour, mais absolument. Je te remercie profondément, et prends bien soin de toi à travers tout ça.
Pareillement, ça m'a fait plaisir.
Merci, Nicolas.
Salut.